I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
C'est la Fashion Week.
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those? Dior clothes.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know?
That's all.
Bonjour Ellie.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Ça va.
On est content de t'avoir.
Grave. Long overdue.
Ouais, grave. On attend cet épisode depuis.
J'ai déjà mort de rire. Ça va bien se passer.
On me dit que ça va dire les termes, comme disent les jeunes.
Je dirais ce que je dois dire et
on aime.
Pas de soucis.
Déjà, on voulait te remercier parce que tu nous as invités à faire une interview et un shoot dans ton magazine, dont tu vas nous parler plus tard.
Donc,
on tenait à te remercier là. Et j'en profite pour faire un petit check les gens qui écoutent le podcast. Vous pouvez aussi le regarder sur YouTube et sur Spotify, pour ceux qui sont abonnés à Spotify. Donc voilà.
Le regarder et le partager d'ailleurs.
Et le partager, bien sûr. Of course.
Voilà, c'est fini pour la promo. On va s'occuper de toi et ton parcours. Déjà, tu viens de nous voir à une occasion particulière. Tu fêtes cette année, du coup, les 5 ans du Barbès Magazine, dont tu vas nous parler de la genèse, etc., et du développement plus tard, mais on le dit en intro. Comme ça, catch les gens dès le départ. On fête les 5 ans de ce beau projet. Mais avant de parler de ça, on veut bien que tu commences par nous raconter un petit peu ta vie à toi, qui tu es, où tu as grandi, c'est quoi les racines familiales, etc.
Ok. Bah, je m'appelle Eli Sedjoro Zinsou. Je suis né en 94, dans le sud du 92, à Bourg-la-Reine exactement.
Okay.
Et j'ai grandi juste à côté, dans la ville de Bagneux.
RERB.
RERB, vraiment juste ville collée.
Oui, je connais. Tu me regardes, je vois que...
Et j'ai déménagé vers mes 10-11 ans dans la ville de Fontenay-aux-Roses. Juste à côté, toujours dans le sud du 92,
okay.
Là où j'ai fait ma scolarité. Mmh. J'ai été en primaire, une partie de ma primaire, j'étais en internat privé catholique.
Ok, parce
que ça forme.
Ouais, ma mère voulait qu'on sorte de la cité, parce que j'habitais dans la cité des Pères Plates à Bagneux.
Ok.
Elle voulait qu'on en sorte et elle nous a mis
dans une bonne école privée.
Bonne, je dirais pas, différente.
Ouais.
Privé catholique, ça changeait, on était interne, on dormait là-bas toute la semaine. Et au moins, toute la semaine, on n'était pas au quartier et on rentrait que le week-end.
Ok.
Ouais, c'est bien. Ça a dû être un gros effort.
Ouais, gros effort financier.
Ouais, financier,
beaucoup,
je parle. Ouais.
Beaucoup d'aide. Mm. Et ouais, c'était quelque chose de complètement différent, même pour nous. Mais parce que j'étais avec mon frère dans cet internat.
Et genre, toi, tu le prends en mode je suis puni ou c'est relou d'être en école privée ou tu te rends compte que.
Même pas. Moi, c'était juste un changement. Vraiment, un jour, je me réveille et j'apprends que j'ai changé d'école. C'était vraiment ça pour le coup.
Okay.
Et je suis arrivé et je me suis très vite adapté.
Moi, c'était. Tu sais que c'était genre les trucs que mes darons.
C'est la menace, hein.
La menace. Mais moi, ouais. Ça n'aurait pas été en privé, mais c'était tiré en internat.
Ah non, il n'y a pas eu de menace. C'était vraiment.
Non, mais là, bien sûr.
Et moi, je l'ai pas mal vécu. D'ailleurs, j'ai des très bons souvenirs de l'internat. C'était plutôt cool. Mm. Et j'ai fait une première sixième à l'internat. Ensuite, j'ai redoublé ma sixième et je suis passé au collège de la ville, à Fontenay-aux-Roses, qui s'appelle Collège Les Ormeaux.
Okay.
Et à partir de là, j'arrive. Par contre, là, gros dépaysement.
Ah ouais, autre ambiance.
Là, ouais, parce que Fontenay-aux-Roses, Bagneux, c'était vraiment... Enfin, je rentrais dans la cité avec les gens qui m'ont semblé. Fontenay-aux-Roses, c'est une ville qui est beaucoup plus homogène, c'est ce qu'on dit.
Cosmopolite.
Ouais, voilà, c'est-à-dire que je suis dans la classe, autant j'ai des gens qui sont plus pauvres que moi. Ce que je ne savais pas qui était
possible.
Et t'as des gens qui sont beaucoup plus riches, des gens qui ont des maisons, des pères entrepreneurs, enfin, il y a de tout.
Ouais.
Et c'est un autre.
C'est cool, ça ouvre. Ça
ouais,
ouvre
c'est autre chose, en fait, ça t'ouvre d'autres
cool.
Possibilités, des choses que tu ne savais pas faisables. Tout est nouveau. Et j'ai vécu une scolarité pas forcément bon élève.
Ouais, ça, c'est la question qui est arrivée de toute façon.
Franchement, entre 8 et 10 de moyenne.
Okay.
Je me souviens d'une année où j'ai dû avoir 11, mais jamais vraiment au-dessus. Mais pas du tout perturbateur. Au contraire, beaucoup apprécié des profs, des bavardages, tu vois, comme tout le monde. Mais,
ouais, mais sage.
Ouais, voilà. Mais pas...
Pas élève discipliné.
Ouais, je suis pas la personne qui se fait virer de cours.
Pas effronté.
Ah non, pas du tout. Je suis juste là.
Présent.
Vraiment, c'était vraiment.
Tu passes
ça.
Par là, tu t'assois, tu fais ton cours, tu rentres chez toi. Quoi.
Ouais, franchement, pour le coup, c'était vraiment ça. Et j'ai d'excellents souvenirs du collège.
Ouais.
Ensuite, je m'oriente vers un bac pro comptabilité, à demi choisi, mais j'y vais et surtout, je me souviens avoir vu qu'il y avait d'autres possibilités après, donc je me dis, je vais aller dans ça et ensuite, je ferai une école de commerce ou je ferai un truc.
Frère, tu passes de 8 sur 10, 10 sur 20 école de commerce. Le mec qui est déjà ingénieur.
Mais non, mais tu dis, c'est le truc général.
Chimiste.
Tu te dis, vas-y, voilà.
Non, mais c'est... pourquoi pas. Après, il y a plein de gens qui ont le déclic beaucoup plus tard,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est ça.
Et qui arrive à 17, 18 ans et après, au moment où ça devient sérieux, où il faut se construire un avenir, une carrière, tu te dis, bon, ok, vas-y.
Bah, c'est exactement ça, je fais bac pro compta, et là où il y a le, comment dire, la déchirure arrive, c'est en première, en fait on me refuse, enfin en seconde, on me refuse le passage de bac pro compta à STG à l'époque, MCTMG maintenant, et du coup, franchement je délaisse l'école. Franchement en première, je me souviens, je dois être en cours, je sais que j'y vais le matin, parce qu'il fallait que ma mère me voie sortir le matin.
Ouais.
Je me rappelle, il y a mais les après-midi plus compliqués.
Le midi, je rentrais chez moi.
Ouais.
Après, j'allais au canapé, tu vois, et j'allais juste pas en cours, donc il y a tout ça. Et vous savez aussi qu'en parallèle, j'étais déjà un peu actif dans la mode. Donc en fait, je travaillais déjà, tu vois, je gagnais déjà un peu d'argent.
C'était quoi, du quoi, à cette époque-là ?
J'étais scout. J'étais
Donc t'es allé partout dans Paris pour essayer de trouver des mannequins et les placer.
Mais vraiment, la première mannequin que j'ai repérée, c'était dans mon lycée.
Ah ouais.
Okay.
Ouais.
C'était une fille de mon lycée, sortie du lycée, je lui dis ouais, tu peux devenir mannequin. Mon départ m'a rembarré.
Ouais, bien sûr.
Et après,
attends, comment tu connais ce qu'est une mannequin? Genre, il y a plein de gens dans un lycée, ils vont pas comprendre. Ils vont voir une fille, ils vont dire elle est belle ou truc, mais ils vont pas savoir.
Ouais, c'est vrai, je sais pas expliquer. En fait, tout commence, disons, fin du collège. Il y a une fille que j'apprécie qui, elle, apprécie beaucoup la mode. Donc, je commence à m'intéresser à la mode.
Et tu fais la technique de rapprochement par le centre d'intérêt. Un classique.
Vrai, pour le coup, c'était vraiment ça. Ouais. Sauf que moi, quand je fais les choses, je les fais à fond. Et je commence à t'as fait le sujet, essayer de rentrer dedans. Un peu pour l'impressionner. Et un peu parce que ça commence à m'intéresser. Mais pas la partie vêtements, mais c'est vraiment la partie...
mannequin.
Pas n'importe maquin, la
partie
mode.
C'est quoi, c'est l'histoire ?
Je saurais pas l'expliquer, mais ça me passionne. Vraiment, je suis intéressé, les trucs des marques, des défilés. Et voilà, je commence comme ça et je découvre ce truc de mannequin. Parce qu'en plus, il y a un mec dans ma ville qui est mannequin, qu'en plus, qui est vraiment un top mannequin, qui fait défiler pour Dior, tout ce que tu veux. Mm-hmm. Donc, je commence aussi à m'intéresser à ça et j'essaie de rentrer là-dedans et je passe par le scouting parce que ça nécessite... Rien du tout, en fait.
Ouais, pas d'argent.
C'est pas d'argent.
Ouais, t'investis rien, en effet.
Je travaille pour personne. Donc, du coup, je me lance dans cette aventure. Je repère une mannequin.
Okay.
Je repère plusieurs. Et avec le temps, je commence un peu à me former. Parce que cette mannequin, je la présente à l'agence métropolitaine. Donc, je rencontre à l'époque Thierry.
Comment tu rencontres ? Enfin, honnêtement, moi, j'ai été scout, tu vois. Et je sais pas, genre... Là, tu parles, t'as quel âge ?
Là, à ce moment-là, 7 ans. J'ai... 17-18, ouais.
Et comment tu sais même que ça existe ? Tu vois, c'est ça, d'être scout et de trucs. Enfin,
parce
tu vois,
que
c'est des
métiers. À l'époque, je passe ma vie sur Facebook et en fait, vraiment, je vais chercher. Okay. Tu vois, je vais chercher. Comme je te dis, j'avais un mec de ma ville qui s'appelait Mathieu Grégoire, qui lui était mannequin. Et à un moment, je me souviens de lui demander comment t'as fait. Il me dit, je me suis fait repérer. Et j'y découvre l'agence 16. À l'époque, 16 men, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. C'était 16. Ouais. Et en fait, c'est une agence de scouting uniquement. C'était pas une agence de mannequin. T'avais même 16 Magazine avec. Il avait
Il
y avait magazine et l'agent de scout. Okay. Et du coup, je découvre que lui, en fait, c'est pas un agent de mannequin. Enfin, c'est un agent scout, mais il est pas booker. Donc, du coup, je découvre
le placement.
Via mes recherches, le placement, et je commence à faire ça. Au départ, je repère des profils pas terribles, mais grâce à
former son œil.
Ouais, bah, surtout grâce à Thierry chez Metropolitan. Lui, il me disait qu'il me disait non, regarde, cette fille, elle est pas assez grande. Pour tel ou tel client, donc je me forme un peu au mannequin commercial chez Metropolitan.
Ouais. Ils ont un très bon département.
Très bon département commercial, c'est ça. J'arrive là-bas et je passe beaucoup, beaucoup de temps là-bas. Tellement de temps que les gens pensent que je travaillais pour Metropolitan.
Okay.
Vraiment, j'arrivais, je me posais sur la table, quoi. On est arrivé à ce niveau-là.
Ouais.
Et je me lie beaucoup d'amitié aussi avec le board homme, à l'époque avec Meng et Magali. Et du coup aussi, je commence à passer beaucoup de temps avec eux.
Ouais.
Et en parallèle, moi aussi, je deviens très productif. Je repère des filles toutes les semaines. C'est-à-dire que je ramène toutes les semaines des nouveaux profils à chez Metropolitan.
Okay.
Et en même temps, Thierry me présente à via Michel Levaton, à l'époque le président de Metropolitan, et aussi et me présente aussi en parallèle à Éric Dubois et Vincent, qui sont les directeurs de l'agence Silence, qui à l'époque était en fait, Michel avait des parts chez Silence. C'était, il y avait un petit truc, c'était, faisait pas partie de Metropolitan, mais il y avait un lien entre les deux. Et c'est vrai qu'il y avait des fois, il y avait des filles qui étaient considérées trop images, qui du coup, au lieu d'aller chez Metropolitan, allaient chez Silence. Okay. Parce qu'à l'époque, ils avaient un scout en commun aussi.
Ponts, quoi.
Dans mes souvenirs, ils avaient un scout en commun, donc il y avait des liens.
Passes.
C'est ça. Et du coup, je commence à découvrir le monde de l'image, en fait. Avec,
ouais, parce que c'est une esthétique complètement différente, l'esthétique de Silence, surtout à cette époque-là. Et l'esthétique de Métro.
Ah, ça n'a rien à voir. Je me prends une gifle, on me refuse tous les mannequins que je propose. En plus, Eric est considéré dans le game comme le, l'agent image par excellence. Là, j'arrive...
Voilà, c'est un step-up, quoi.
Ouais, tu rentrais dans... C'était rue Ponthieu, tu rentrais dans l'agence. Par terre, tu avais plein de magazines. Et là, je découvre les magazines, en fait. Il n'y a pas de L ou quoi que ce soit. Là, tu découvres Cell Service, Holiday, qui est devenu mon magazine préféré. Tu découvres tout. Tu découvres aussi la technique. C'est-à-dire que une mannequin arrive. OK, ça, c'est une fille Saint-Laurent. Ça, c'est une fille... ça, c'est une fille ça. Et tu as une autre manière de bosser. J'ai déjà vu... Enfin, chez Silence, j'ai vu refuser des gros cachets sur des mannequins parce qu'en termes d'image, ça ne matchait pas. Tu vois,
il avait cette vision. Tu sais, l'épisode de Paul Roland et ils bossaient beaucoup ensemble. Tu vois, avec Eric, et c'est la même culture de management, de construire des carrières sur le long terme, savoir dire non, pousser les rates. Tu vois, genre.
C'est sans compromis, quoi.
Voilà, c'était une très très bonne école, ça. Quoi. Et avec le temps, j'ai passé aussi beaucoup d'années chez Silence, mais vraiment, je débarquais comme si je travaillais là-bas, en fait. Je débarquais, j'ai vu arriver les nouveaux bookers, j'ai vu partir les anciens. C'est devenu une espèce de famille, tu vois. Je représentais des modèles tout le temps, et on est arrivé à un niveau où, quand je repérais un modèle, si elle signait pas chez Silence, ou chez Viva aussi à l'époque, parce qu'en parallèle, je commençais à bosser avec Viva, mais j'étais moins présent, je la gardais pas. J'étais devenu vraiment un scout image, et c'était soit Silence, soit Viva. Sinon, ça m'intéressait pas. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, je le vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mannequins en agence qui sont mannequins. C'est des filles que j'ai repérées et que j'ai pas gardées, que souvent c'est des filles que j'ai pas gardées, mais qui sont encore mannequins. Et en fait, cette ville est remplie de mannequins que j'ai repérées, dont des mannequins que j'ai repérées au fin fond de campagne bretonne. Je pense pas à Sarah Boursin qui est chez Suprême aujourd'hui. Sarah, je l'ai repérée, elle vivait à Cancale en Bretagne, tu vois. Et en fait, j'ai complètement changé son parcours de vie parce qu'elle n'était pas du tout amenée à venir à Paris, à faire tout le parcours mannequin. Enfin, je l'ai même vu changer, tu vois. J'ai
Vu passer. Je...
Ouais, mais ouais, on lui a fait des trucs avec ses cheveux. Mais enfin, tu vois, c'était une époque différente. Il y avait plein de. Enfin, j'étais vraiment productif. Tu vois, et des filles comme Sarah, c'est des filles que j'ai aussi accompagnées parce que j'étais un scout qui était présent. Tu vois, plus ça à l'époque, c'était venu débarquer à Paris, donc plein de choses. On l'envoie à Londres, personne ne sait où aller. Elle a perdu son téléphone. J'apprends que son téléphone, elle l'a acheté par la fenêtre pour des trucs, des histoires ouf, tu vois.
Modeling story.
C'est ça. Elle était bookée pour faire le défilé Alexander Wang à New York, à l'époque, qui était le défilé qui lançait ta carrière. Il se passe que je crois qu'elle rate l'avion, ou il y a des histoires de trucs, ou je l'appelle, je lui demande où elle est à l'aéroport. En fait, elle n'a pas pu prendre l'avion parce que sa valise était trop lourde. Donc je lui dis, mais. Enfin, tu sais, des histoires comme ça, et j'étais, pendant plusieurs années, j'étais ce scout très présent à Paris, et jusqu'à peut-être 2017, où j'ai commencé à avoir, à être moins impliqué. Et ça s'est vu aussi dans la représentation, dans les mannequins que je représentais, j'étais beaucoup moins impliqué, parce que il y a eu une baisse de volonté qui était due à une autre réalité du game, c'est que moi, je viens de banlieue, c'est que j'ai beau être chez Metropolitan, Silence, voir la mode et tout, le soir, je rentre en banlieue. Tu vois, je rentre dans une autre réalité. Et y a dans ma vision de la mode, dans ma vision de la beauté, forcément, ça implique aussi, enfin, ça impacte beaucoup ce que je fais, et je leur amène que des mannequins noirs ou arabes. Littéralement, des mannequins caucasiens, c'était pas... enfin mon œil ne les remarquait pas, tu vois. En plus c'était l'époque où il y avait que des Russes, que des, enfin tu vois, que des Noirs et des Arabes, comme on dit. Et on me dit non. Franchement, je on a une époque où je me souviens très bien, on me dit face to face, on peut pas la signer, on vient de signer deux mannequins noirs.
Ouais.
Enfin, tu vois, quand on te dit ça, tu dis mais. Et alors ?
Pourquoi pas trois ?
Bah oui, pourquoi pas 10 et...
Tu dis pas une fille blanche, hein. Ah ouais, excuse-moi, on peut pas te signer, on a signé deux blanches cette semaine.
C'est hein. Ça, tu vois, j'ai eu ce. Moi j'ai eu ce problème, mais de front, tu vois. Et qu'est-ce que tu dis à la modèle en fait ? Tu vois, qu'est-ce que tu lui dis ?
Mais toi tu le prends comment personnellement vu que t'es noir aussi ?
Moi je le prends super mal. Moi je suis. Ah, mais... Moi je le prends.
Non mais je veux dire, tu vois, moi on me l'a déjà dit, mais moi je suis pas noir, tu vois. Je trouve ça injuste, mais ça m'impacte sûrement beaucoup moins que toi, tu vois.
Ah mais moi je le prends super mal parce que surtout, comme je t'ai dit, je repère que ça quasiment, tu vois. Et encore, j'ai envie de te dire, finalement j'arrivais à les placer des fois, ou des fois on attendait un peu que la saison passe, et du coup c'est vu que l'agence elle a besoin de mannequins noirs, et du coup on te rappelle, ah t'aurais pas vraiment, on t'appelle littéralement, t'aurais pas un ou deux mannequins blacks, tu vois, c'est ce qu'on te dit au téléphone.
Ouais.
Oui, mais parce que tout ça, c'est régi par une industrie de clients qui ne demandent pas de mannequins.
C'est pour ça que j'ai jamais.
C'est l'offre et la demande, quoi.
C'est ça, c'est pour ça que finalement, j'ai jamais attaqué.
Chacun se rejette la faute sur l'autre. Ah oui, mais il n'y a pas d'offre. Et après, quand on te dit oui, mais il n'y a pas de demande, ah oui, mais il n'y a pas de demande parce qu'il n'y a pas d'offre. Tu vois, bah, c'est ça, c'est facile.
C'est ce que moi, je les avais un peu reproché. Je leur dis, mais enfin, proposez-leur, tu vois. Et finalement, j'étais en mode, ok, en plus, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Donc je lui dis bah juste ok, j'allais voir ailleurs, et je viens de te dire c'était moins pire que les mannequins arabes.
Ça allait toujours.
Non mais vraiment, pour le coup j'en ai repéré plein. Je me souviens de Yasmine qui aujourd'hui travaille dans le caviar, tu vois, qui pour moi a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir. Elle fait beaucoup de beauté et je crois qu'on peut encore aujourd'hui la voir chez Sephora, tu vois. Mais je sais que le fait qu'elle soit maghrébine.
Yasmine qui était chez Silent.
Qui est toujours chez Silent, sauf okay, tu vois.
J'avais booké sur Off-White, je me rappelle.
Bah tu vois, c'est une fille que j'ai. La deuxième fille que j'ai repérée dans ma vie.
Okay.
Tu vois, donc Yasmine et moi, finalement, ça va faire 10 ans peut-être qu'on est là. Et elle n'a pas eu la carrière qu'elle devait avoir, tu vois. Je sais qu'elle a beaucoup bossé à Londres, mais à Paris, c'était compliqué. Il y a eu, je sais pas, Anissa, tu vois, que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps, qui était partie chercher à Lyon. Tu vois,
ouais, pareil. T'as vu de la France quand même.
Ah, mais moi, je prenais le TGV pour aller voir des mannequins.
Vrai.
Vraiment, je prenais le TGV pour rencontrer les parents, les machins. Je suis allé à Besançon.
Mais tu les repérais comment ? Du coup, tu te déplaçais ?
Beaucoup de réseaux sociaux. De réseaux sociaux. À l'époque, beaucoup Twitter. Parce que les gens n'étaient pas sur Twitter, mais moi, j'y étais à fond.
Okay.
Et j'étais même devenu le scout de Twitter. Genre, je recevais des gens qui m'envoyaient des messages. Tiens,
c'est vrai qu'on va l'appeler comme ça, l'épisode, le scout de Twitter.
Et du coup, ça a été une époque où j'étais très productif parce que je faisais que ça, en fait.
Okay.
J'étais jeune, donc j'étais chez ma mère. Je faisais que ça et c'était quand même... J'ai des bons souvenirs, tu vois. Malgré quelques péripéties, mais j'en garde quand même des plutôt bons souvenirs. Voilà, ça a été...
C'est très formateur, en tout cas, le scouting.
Ouais, ça t'apprend beaucoup et j'ai beaucoup appris sur la mode d'une manière générale. Et ce qui, du coup, a beaucoup impacté ma deuxième partie de vie, l'après-scouting. Parce que,
quand t'es en scout et que t'es en agence comme ça, t'as un peu les mains dans le moteur. Ce que tu disais, que t'es arrivé, que tu voyais Eric qui refusait certains raids, des trucs comme ça. En fait, après, tu comprends toutes les facettes de
l'industrie. Ah mais oui, ça qui est fort. Les photographes, tu vois, mais ne serait-ce que les photographes. Tu vois, t'apprends que vaut mieux faire deux pages dans le self-service avec Ezra Petriono que faire 10 pages dans le L, je sais pas quel pays, ou le Vogue de je sais pas quel pays. Enfin, tu vois, on est dans ce dynamique-là, on est dans...
Ah, tu comprends les
enjeux. Tu vois, il y a une liste, pour certains mannequins, il y a une liste de magazines et de photographes, et en dehors de cette liste, on fait pas.
Ah, bien sûr.
Ouais.
Tu vois, on est dans ce niveau-là, et ça marche aussi. Surtout, je vois que ça marche. Mmh. T'as des mannequins qui sont là depuis des années, qui bossent peut-être pas beaucoup, mais qui font des jobs parfums, de grosses marques, des défilés... Enfin, tu vois, je me souviens de Otilia Simon qui faisait que Chanel pendant un moment.
On l'a eu au podcast, Otilia.
Ouais.
Tu vois. On l'adore.
Ah oui, bah c'est là que j'ai découvert le podcast. C'est là que j'avais découvert.
Ah.
Bah j'étais chez Silence à ce moment-là. Et Eric disait ah Otilia passe dans le truc et tout. Si je me souviens très très bien. Je me souviens. Et du coup, je suis parti écouter.
Ok.
C'est Eric qui m'a fait découvrir le podcast, on va dire.
Voilà, la boucle est bouclée.
Mais du coup, ouais, c'est des choses comme ça. Tu vois, je vois le travail sur Otilia Simon qui est là après tant d'années, qui pendant un moment, je me suis dit, faisait que le défilé Chanel. En termes de magazine, tu la voyais que dans le Vogue ou dans des magazines bien précis.
Mm.
Enfin, tu vois, il y avait toujours un sujet, c'était jamais magazine pour magazine ou marque pour marque, tu vois. Ouais.
Et c'est pas des logiques de volume.
Aujourd'hui, je crois qu'elle a fini au Holiday Magazine. Ouais, tu vois, c'est quand même une fin de carrière. C'est quand même une. Tu vois, quand tu maintiens de son niveau et de son âge, c'est, souvent les gens ils retombent dans la vraie vie, tu vois. Et puis fin, mais là, quand même une suite qui, je pense, aurait pas été pareille dans une autre agence. Tu vois, il y a vraiment ce truc. Donc j'ai beaucoup appris chez Silence, Eric, Patricia, tu vois.
Marianne.
Marianne, bah oui. Marianne, avec qui on parle beaucoup de triathlon en ce moment.
Pourquoi t'es
ouais,
sur ça?
Je fais un triathlon en début juillet. Parce que je fais à fond. Je suis pas à fond dans la natation, mais tout ce qui est vélo et footing. Et du coup, avec Marianne, dès qu'on se voit, dès qu'on se parle.
Elle a des potes qui sont très, très, très sérieux. On en parlait l'autre jour. Elle a des mecs qui font le triathlon. Je sais pas. Enfin, je connais même pas les chiffres, mais.
Ouais, ouais, ils font des L, ils font des. C'est genre je sais pas, des 180 km de vélo, des trucs de ouf, ça c'est un autre niveau. Ouais. Mais du coup, à Silence, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours proches, Samir, Marianne surtout, parce qu'ils sont plus de mon âge. Mm. Et tu vois, Samir, je l'ai vu arriver chez Silence, tu vois. Je l'ai vu arriver au département images. Donc il y a tout ce truc, on se parle toujours, on a un groupe WhatsApp.
Donc, il a bien évolué, hein, il a bien grandi, il a bien.
C'est devenu un patron maintenant. Mmh. C'est devenu un patron qui gère ses mannequins
non,
et
c'est
tout.
Cool, c'est cool quand tu vois des gens arriver et que tu les vois évoluer dans le bon sens sur le long terme et tout. Tu vois.
C'est ça. Voilà, Silence, toujours là et j'y passe de temps en temps.
Ok. Juste si on revient un petit peu sur le premier pas, comment tu sautes le pas, comment tu approches les premières agences et tout. Quel souvenir t'en gardes? Tu vois, comment était l'accueil? Comment t'as dû te présenter pour pouvoir créer ce lien?
Le premier souvenir qui me vient, c'est moi qui envoie un message à un photographe sur Facebook pour avoir le contact d'IMG et le photographe qui me dit qu'il peut pas me le donner. Tu vois, donc,
un classique, un autre.
Un classique de la mode, tu vois. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'une semaine après, je me retrouve en rendez-vous chez IMG parce que j'ai quand même trouvé le contact. Et à l'époque, ils étaient rue.
Les anciens bureaux dans le 16e.
À côté de Perrin. Tu vois, et à ce moment-là, j'ai le mec qui est trop content de me voir parce qu'en fait, il me fait comprendre que ils ont un intérêt à travailler avec des scouts français parce que sans les scouts, ils n'ont pas de mannequins. Mm-hmm. Et que pour une agence de mannequins française, c'est mieux d'avoir des Français basés à Paris que de voir faire flyer des Américaines, des machins, des trucs et tout. Donc le mec, il me donne sa carte, il me dit tu m'envoies quand tu veux, dès que t'as une fille, si t'es pas sûr, tu m'envoies. Donc en fait.
C'était Patrick Lemire à l'époque ou quelqu'un
d'autre? Non, c'était un Espagnol. J'ai complètement oublié son nom, mais je me souviens qu'il était. Qu'il était l'assistant, enfin, il bossait avec une dame qui est, je crois, toujours chez IMG.
Joanna. Joanna Olson, qu'on adore.
Tu vois, donc j'ai toujours. Je sais qu'il était supervisé par Joanna. J'ai pas rencontré Joanna, mais voilà, il bossait avec elle. C'était son assistant.
La directrice d'Annual Face.
C'est ça. Et du coup, voilà, je débarque chez IMG et là, en fait, je découvre que ce game va être compliqué. Mm-hmm. Tu vois, parce que j'ai compté. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir de ce photographe qui. Puisqu'on connaît tous, c'est ça le pire.
Allez, balance le nom.
Bah, je me souviens, Joseph, désolé mon gars. Ah. Tu vois, je me souviens, elle a envoyé un message sur Facebook et il me dit qu'il peut pas. Je sais pas pourquoi, il me dit qu'il peut pas.
Et il y a un problème sur son ordinateur, je crois que c'est pour ça.
Mais tu vois, je l'en veux pas, tu vois, parce qu'en plus, on s'est recroisés il y a pas si longtemps que
C'est un bon gars,
tu
Joseph,
vois.
En plus.
Mais c'est ça, pire, c'est que dans la mode, t'as que des bonnes personnes. T'as pas de mauvaises personnes. T'as personne qui est. Non, t'as
pas jusque-là, mais bon.
Pour moi, t'as pas grand monde qui est profondément méchant. Mm-hmm. Tu vois, t'as que des équipes, des gens avec des intérêts, des machins, mais t'as personne qui est profondément méchant. Tu vois, c'est. Après, oui, c'est pas toi
c'est
que je.
L'être humain.
Hein. Ne se prononce pas.
Mais du coup, c'est le premier souvenir que j'ai. C'est le premier souvenir que j'ai. Et ensuite, j'ai un enchaînement, métropolitaine, le reste. Mais le premier souvenir est. Je dirais pas forcément positif, mais ça m'a ouvert les yeux sur le reste, en fait. Et du coup, quand je débarque chez Métropolitane, d'envoyer un email à Vincent, qui était chez M Management à l'époque avec Magali, et il me répond, il me propose un rendez-vous. Et bizarrement, pour un rendez-vous, c'est même pas lui que j'ai vu Thierry, et avec qui on a parlé pendant des heures.
Okay.
Parce qu'avec Thierry, tu parles toujours pendant des heures. C'est il faut savoir. Et du coup, boum, ça a commencé comme ça, et j'ai enchaîné après avec la suite. Après, j'ai bien évidemment bossé avec plein d'autres agences, mais très vite, je me suis focalisé sur Viva et Silence pour tout ce qui était image, et Métropolitane pour le commercial, parce que je me suis dit, il n'y a pas besoin de plus. Tu vois, chez Métro, ils font des showrooms, du commercial, des machins. Et pour l'image, je me dis, si la fille est chez Silence et Viva, c'est que c'est bon signe. Si elle n'est pas dans ces deux agences, c'est qu'il n'y a pas forcément une bonne carrière qui
s'amorce.
Ouais, qui s'annonce et tout.
Ok.
Donc voilà, c'était okay. mes
Il y a plein de filles qui ont pas été là-bas qui ont des super carrières. Hein.
C'est vrai.
C'est un peu ce qu'eux ont réussi à raconter en storytelling et ça marche.
C'est ça. Donc moi, je l'ai vu. Et après aussi, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles les bonnes carrières ? Parce qu'il y a des mannequins que j'ai repérés il y a des années qui bossent encore à l'heure où je te parle. Toi, qui paient leur loyer avec le mannequinat, qui vivent du mannequinat, qui voyagent. Donc qui, pour moi, ont des bonnes carrières. Donc en fait, c'est bonne carrière en termes d'image. En fait, une vision du mannequin.
Il y a plein de meufs qui ont fait les plus beaux trucs de leur vie, de l'image, et qui ont fait moins d'argent que plein de filles qui sont chez métro en commercial.
Ce qu'on appelle les showgirls, qui enchaînaient les défilés. Mm. Et en dehors des défilés, elles étaient nulle part. Tu vois, peut-être un ou deux magazines, mais finalement...
Qui
en plus, ne sont pas payées. Mais qui faisaient rien entre les deux.
Non, c'est sûr. C'est des choix.
Bah, pas pour les mannequins, tu vois. Disons que le mannequin préfère un choix de carrière par rapport à l'agence dans laquelle il va signer.
Ouais.
Si tu signes chez Silence, t'aurais un type de management complètement différent.
Ouais, mais quand tu signes, tu t'en rends pas compte. Pour moi, c'est pas comme si tu signes dans un club de foot. Tu vois, quand les filles, surtout à cette époque-là, elles signaient 15 ans, 16 ans, qu'est-ce qu'elles comprennent de la différence entre Viva, Silent, IMG.
Ça, c'est avec le concours Elite et tout. À l'époque, Elite et IMG, c'était les agences les plus fame de la Terre. Toi,
Elite reste la plus grosse marque, en tout cas. Ouais. Tout le monde connaît Elite dans le monde, quasiment.
Ah, mais c'est ouf, mais tu sais que j'ai perdu des filles grâce à ça. Enfin, à cause de ça. Je me souviens, parce que, en fait, tu rencontres une fille, tu lui dis, tu lui fais comprendre qu'elle peut devenir mannequin. Mmh. Elle le savait pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se renseigner.
Et
qu'est-ce qu'elle voit ? C'est exactement ça. Elle voit que du coup, l'agence en chef, c'est Elite. Et du coup, t'as plus de nouvelles d'elle. Et du coup, tu vas voir qu'elle participe au concours Elite. Soit se fait recal et elle revient vers toi. Mmh. Soit du coup, t'as plus de
nouvelles d'elle.
Tu débarques et toi, tu lui dis, écoute, on va aller soit chez Silence, soit chez Viva. Des agences qui sont inconnues au grand public.
Ouais.
Et elle va te dire... c'est ça en fait, tu vois, c'est ouf. Et je disais une mère de famille qui avait appelé chez Viva en disant oui, on a rencontré un scout qui dit qu'il travaille avec vous. Et elle est tombée sur Julie Provenzano. Et du coup, Julie a dit oui, Eli, on le connaît et tout, il n'y a pas de souci, etc. Après, Julie m'a appelé.
Julie Provenzano qui est la scout in-house
de Viva depuis des années, avec qui je m'entends super bien.
Un œil
encore
incroyable.
Aujourd'hui. Pour le coup, elle est vraiment très, très, très forte. Hein. Ouais. Et tu vois, il y a plein d'anecdotes comme ça sur le mannequinat ou moi qui voyage. Parce que du coup, chaque Fashion Week, je faisais les voyages comme les agences de mannequins. J'allais à Londres, j'allais aussi à Milan.
Parce que tu faisais le placement de par
ouais, parce qu'en fait, je représentais finalement tellement de mannequins, en plus des mannequins qui marchent bien. Et tu sais, les agences veulent te rencontrer. Tu vois, veulent te rencontrer et tu y vas. J'ai même des propositions de job à New York, je me souviens, à Los Angeles. Parce que les Américains, dès qu'ils viennent, ils veulent te récupérer parce que au bout d'un moment ils disent attends, c'est toi qui repères toutes ces filles, des machins, des trucs. Ils disent si tu viens à New York, tu peux cartonner. Tu vois, bon, j'ai jamais été attiré par le pays, mais enfin, tu vois, j'ai eu des années de gloire, on va dire, où c'était la folie.
Je me rappelle que ton nom est tourné grave.
J'ai eu Clarisse Lemoine qui était devenue, qui avait un bon démarrage avec Gucci exclusif. Finalement, Gucci, après leur défilé à Londres, l'ont annulé. Et boum, elle tombe sur Natasha Ramsey-Lévy qui arrive chez Chloé et qui la kiffe. Et boum, elle devient mannequin cabine chez Chloé pendant 4 ans. Mm. Et on sait tous que mannequin cabine en termes d'argent.
C'est des bonnes commissions.
Je crois qu'elle s'est acheté un appartement en plus. Ah, mais tu vois, mannequin cabine, c'est en termes d'argent, c'est des trucs. Et vraiment, ça a été à l'école. Donc je crois qu'elle avait son petit bureau chez Chloé. Enfin, vraiment, elle était in-house. Et ce qui était très, très gros, c'est qu'il y a une collection. Où en fait il y a un imprimé, bah c'est elle en fait. Genre à quel point elle était devenue. C'était assez drôle.
Ouais.
J'en ai plein des petites histoires comme ça avec des mannequins. Ça me rappelle des souvenirs.
C'est ça qui est intéressant. Mais du coup, t'as été doublement audacieux parce qu'il faut avoir l'audace d'approcher les agences de mannequins et l'audace aussi de tous les jours se lever, aller aborder des nanas dans la rue en leur disant
jamais
tu peux devenir mannequin.
Jamais fait comme ça. Franchement, un grand noir d'1m92 à Paris qui aborde une fille, qui lui parle de mannequinat.
Ouais, tu peux te faire arrêter très rapidement.
Non, mais elle va pas me croire, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Elle va juste penser que. Et
c'est marrant que tu dis ça parce que moi je l'ai fait un peu. Maintenant je le fais plus du tout. Mais hier j'étais en vélo dans mon quartier et j'en ai vu une et j'ai dit je vais m'arrêter. Je suis avec l'AirPod, le truc, elle va me prendre pour un ouf. J'ai tracé.
Moi
maintenant j'ai une technique quand je le fais que j'aime tout seul, je le fais plus parce que je trouve chelou un peu, mais quand je suis avec mon équipe ou avec des gens, je suis plus à l'aise de le faire, tu vois, parce que la personne elle va se sentir moins visée quand il y a un groupe, tu vois, genre t'es dans un groupe et que tu te déplaces, Et maintenant, je donne mon Insta. Je dis, tiens, c'est mon Insta, ajoute-moi si ça t'intéresse. Tu vois. Au moins, tu vois, tu vas pas. C'est elle qui prend le pas ou lui qui prend le pas de truc et il voit qu'il y a un truc. Et au moins. En tout cas, moi, maintenant, j'utilise ça quand je le fais de temps en temps, mais c'est plus facile.
Ouais, non, moi, j'ai jamais arrêté. Je suis jamais sorti en me disant je vais repérer des filles dans la rue. J'étais sur Insta. En plus, moi, à l'époque, mon Insta, il était full mannequin, mannequinat, des posts, les magazines, les défilés et tout, et les stories et autres. Donc, quand je vois un message, la fille a voyé tout de suite que voilà, c'était mannequinat, que c'était réel.
Ouais.
Donc, c'était beaucoup plus simple. Et en plus, avec le temps, les gens m'envoyaient directement des messages. Tu vois, donc,
bien sûr, c'est ça qui est
marrant. Une amie.
Les filles ramènent des copines aussi, souvent.
C'est ça. Il y a eu beaucoup ça. Mais non, c'est vrai que j'ai jamais arrêté de filles dans la rue.
Ok.
Je suis trop timide.
Non, bah quand même, il a fallu avoir un peu d'audace quand même pour se lancer dans tout ça, tu vois.
Bah, d'audace, j'en ai, ça, oui. De toute façon, j'avais rien à perdre. Tu sais, j'y suis allé. Et surtout, voilà, je leur apporte du business techniquement, tu vois, parce que c'est une affaire de business.
Ouais.
Donc j'avais aucune raison de me claquer la porte. Et d'ailleurs, jamais personne ne m'a claqué la porte. Donc au contraire, les gens vraiment voulaient travailler avec moi et c'était moi qui étais devenu sélectif.
Ouais.
Donc à ce niveau-là, jamais eu de soucis, j'y suis allé. Et c'est un milieu, c'est vrai qu'il est dit fermé, mais si tu leur apportes quelque chose dont ils ont besoin, ils vont t'ouvrir grand les portes. Hein. C'est aussi simple que ça.
Ouais, mais c'est aussi la question de se dire est-ce que je suis légitime à ça. Tu vois, le jour où tu franchis le premier seuil de
Je ne me suis jamais posé la question, j'y suis juste allé. Franchement, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que machin? Non, juste j'ai du business et viens, on fait du business, quoi.
Ok, t'es un Américain, en fait.
Je ne sais pas si j'arrive jusqu'à là, mais c'était juste...
Non, mais très bien.
Voilà, il faut faire et j'ai quelque chose dont ils ont besoin et je viens avec, quoi.
Bah, non, mais c'est un très bon enseignement, c'est cool. Est-ce que tu veux nous parler de la suite? Comment t'enchaînes, du coup? Parce que là, tu nous dis, ok, j'ai mes heures de gloire dans le scouting, super.
Mais ensuite,
et après, tu t'enlaces, parce que c'est ce que tu commençais à dire, que t'avais ta réalité qui te rattrapait un petit peu. Le soir, je rentre chez moi, et puis je me rends compte, quoi, que du coup, ce que je vois dans le mannequinat, c'est pas la réalité de ce que je vois dans les rues tous les jours.
Bah, c'est pas ma réalité. C'est pas aussi ce que je veux faire. Enfin, c'est pas... Moi, c'est, en fait, j'aime bien un peu à contresens. Et j'arrive dans les agences, il y a que des mannequins des pays de l'Est, en fait.
Mm-hmm.
Donc, moi, je me dis, ouais, à ce moment-là. Et moi, je me dis, bah, je vais ramener quelque chose de différent. Et je me souviens même, encore une fois, pour l'anecdote, je parle à Thierry et j'explique à Thierry, je dis, il n'y a pas de mannequin indien dans le game. Je me souviens, mais genre, quelques temps après, je tombe sur un Insta, etc. Et avec Thierry, on tombe sur Pujamor. Bah à ce moment-là, elle est en Inde, elle est dans une agence indienne qui connaît rien du tout au mannequinat. Je sais pas comment Thierry a géré le truc et tout. Il signe Pujamor, mais on la connaît pas hein, vraiment. C'est une inconnue au bataillon et elle commence par faire Louis Vuitton croisière. Et à partir de là, je me souviens, moi je vois sur Instagram qu'elle arrive à Paris. En plus moi, Pouja, je lui parlais sur Insta et tout, etc. Je lui dis, putain, je suis trop content, tu viens à Paris. Je vois qu'elle est à Paris, je débarque chez Metropolitan. Je me souviens, je parle à David, je lui dis, Pouja, elle est où? Il dit, bah Pouja, elle est pas là. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, bah Pouja, elle est chez Premium. Et en fait, je découvre qu'il y a eu des micmacs avec son agence à New York, parce que Metropolitan, enfin, tu connais les trucs des agences, tu vois, des micmacs. Et en fait, Pouja était partie... Elle était plus là, quoi. Elle était partie dans une autre agence. Je crois d'ailleurs, après Premium, elle a fait une autre agence. Après, je crois qu'elle a fini chez Viva maintenant. Mais il y a eu plein de trucs. Mais tu vois, c'était que ça. Moi, j'ai toujours aimé. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de noirs, mais de ramener des noirs dans le game, de ramener des arabes, ça, c'était presque un combat. Parce que moi, quand tu me dis non, déjà, je prends le seum.
Ah, il faut dire que t'es un mec qui peut avoir le seum très rapidement. Ouais. Tu peux dire, vas-y.
Non, mais, oui, je prends très rapidement le seum. Mais par contre, je suis pas dans cette dynamique. Je vais pas t'insulter comme ça. Je vais te montrer.
Je vais attendre un peu avant.
Oui, je vais attendre et je vais surtout te prouver que t'as tort. Parce que quand je viens et je te dis quelque chose, je suis quasiment convaincu d'avoir raison. Et quand je dis que ça, il en faut, tu vois, quand je leur dis qu'il n'y a pas de mannequin maghrébin, pas de mannequin arabe dans le game et que du coup, on peut jouer cette carte auprès des clients pour leur dire, regardez, ils peuvent le marché Dubaï, le marché du Moyen-Orient, et surtout qu'il y a des Arabes en France, en fait. Donc, au bout d'un moment...
Ça serait bien, de passer le message.
Tu vois, en fait, c'est juste mettre pour moi... C'est juste la normalité, tu vois. Mais voilà, ça a pas fonctionné, tu vois. Je pense à Yasmine, je pense à Anissa, je pense à
Anissa, Bradley. Elle est en train d'avoir un... faisait
ouais,
un truc.
Ouais, j'ai vu qu'elle est partie en Australie, etc.
Ouais, ça
tu vois.
Bien passé. Mais... Là, j'ai vu qu'elle a rebouclé ses cheveux naturels. Je pense que.
Ouais, mais tu vois, tout ça, c'est.
Très belle fille.
Et Anissa, je la repère il y a 6 ou 7 ans. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est... Parce qu'elle a jamais lâché l'affaire. Enfin, à un moment, elle avait un peu lâché, elle était retournée à Lyon, il y a eu plein de trucs. Tu vois, elle a fait des études, elle a fait plein de trucs et tout. Okay. Donc là, elle est revenue parce que le game est un peu plus propice. Mais ah enfin, tu vois, tout le temps qu'il a fallu et
mais
tout le monde n'a pas
cette fois. Je l'ai rencontrée cette saison, la première fois, pour te dire. Hein. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça c'est que je t'ai jamais vu? Comment ça, tu vois? Ça
bah c'est ça, tu vois. J'ai encore des poils à d'elle et tout. Ouais, c'est que se lisser les cheveux.
Ouais, elle en parlait. C'est exactement ça dont elle parlait.
Bah ouais, non, il y a eu ça. Et en plus, surtout que ça, elle fait pas du 34-36.
Ouais, enfin, tu vois. Pareil, la deuxième chose dont elle a parlé.
Bah, tu vois, c'était compliqué. Et il y avait aussi ça aussi que j'ai oublié de dire. C'est que moi, je commence à être gêné à devoir dire à des filles, il faut que tu perdes. Vraiment, il y a un moment où je leur disais plus. Vraiment, soit t'étais dans les mensurations quand je te repérais. Et si je te repérais, t'avais pas les mensurations. Des fois, je tentais le coup, ce que j'ai fait, bien sûr, ça n'a jamais marché. Mmh. Ou soit, je préférais, enfin, je venais même pas te parler, en fait, je disais non, ça marche pas. Parce que comment dire à des filles qui sont même pas un peu rondes que tu dois perdre 1 ou 2 centimètres de hanche
et qui voient 2 kilos au moins.
Mais c'est ça, et surtout, moi, c'est pas ma réalité quand je rentre à Fontenay-aux-Roses. Mmh. Surtout en tant que mec, c'est pas du tout ma réalité. Donc, je me dis. C'est quand ça me saoulait en fait, et surtout à ce moment-là, je suis encore jeune et vas-y, j'ai juste plus envie en fait. Et je crois que c'est très ce truc aussi qu'avec avec Anissa qui m'a. Parce que je me souviens qu'Anissa m'avait en vrai, elle m'a un peu embrouillé parce qu'elle considérait que j'avais pas fait assez, tu vois. Et encore, elle savait pas, mais il y a plein de choses que je lui ai pas dit parce que des fois, on me disait des trucs. On me disait des trucs de ouf, vraiment, on me disait des trucs de ouf, des commentaires. Banaliser, je ne veux pas lui dire à Anissa. Donc, à chaque fois, moi, je préfère lui dire, ça marche pas.
Ouais.
Et du coup, elle était en mode, ouais, tu fais pas assez, tu fais pas un truc et tout. Mais je préférais ça que devoir lui dire des trucs. Des fois, le mec, un jour, dans une agence, le mec, il faisait des termes. Tu vois, en parlant d'Anissa, j'étais en mode.
Ça reste une personne,
vas-y.
Quoi.
Vas-y, vas-y. Tu vois.
Bien sûr.
Donc, j'ai préféré, avec le temps, partir. Et j'avais aussi d'autres envies en fait.
Ouais.
Tu vois, j'avais cette volonté de magazine.
Tu vois, vient cette idée justement d'avoir un magazine là, du coup.
Bon, attends, je pourrais faire de haut.
Allez, partout, ça va commencer.
De base, moi je suis toujours dans le mannequinat, dans la mode. Ça me rapporte beaucoup d'argent. Pour le coup, vraiment, je.
Gagne bien ta vie.
Je gagne bien ma vie.
Pour expliquer, tu vis des commissions qui sont générées par les mannequins.
Et pas que, c'est que je t'expliquais, il y avait des mannequins que je gardais pas. Et en fait, je commence à développer des deals avec certaines agences, et que les filles commerciales, en fait, je leur donne, je suis pas agence mère, mais ils me payent un cachet.
Ouais.
Donc, dis-toi, à ce moment-là, je repère 3-4 filles par semaine. Donc, en fait, à chaque fois, 1500, plus les commissions et les machins et
Ça va vite. Hein.
Donc, je gagne beaucoup d'argent. Et moi, j'avais cette envie aussi d'avoir un magazine, mais je voulais pas travailler dans un magazine, ça m'intéressait pas du tout.
Okay.
Et là, j'appelle un ami. Qui s'appelait Pierre, et à l'époque il y avait un blog.
Okay.
Et en fait, je me souviens, j'avais fait des photos pour son blog, etc. Et je me souviens que ça s'était bien passé, mais j'avais pas aimé la manière.
Ah, ok, je viens de faire le rapprochement avec quel Pierre c'est.
Et en fait, j'avais.
Ah,
ok. Parce que du coup,
elle sait pas l'histoire, du coup, elle regarde comme ça de qui vous parlez.
Ah, si, si.
Ah, tu sais.
Oui,
mais du coup, on vient du même collège, en fait, on vient de la même ville, on habite à côté, Tu vois, même son frère sortait avec sa sœur sortait avec mon frère, donc on était amis, tu vois. Et du coup, lui, il avait un blog dans la mode, parce que je commence à travailler dans la mode, et plein de gens autour de moi commencent à s'intéresser, dont Pierre et d'autres amis. Donc tout le monde commence un peu à... On commence tous à aller à Paris ensemble, en fait.
Okay.
Et Pierre monte ce fameux blog, et c'est un pote à moi, donc moi je le suis dans son truc et tout, et je fais des photos pour lui.
Vous êtes de la même ville, du coup?
Ah, mais complètement. Même collège, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et voilà, donc je fais des photos pour lui. À l'époque, il interview ce qu'aujourd'hui on appelle un influenceur, mais à l'époque, il n'y avait pas de terme en fait. Et il interview, et moi, j'avais pas aimé la manière dont cet influenceur avait un peu négligé l'interview, tu vois. En mode, je crois que Pierre lui avait envoyé, le mec, il avait dit, ouais, genre, il avait envoyé un smiley en mode, ouais, bien joué, mais t'es sans plus de réaction, tu vois. Ce détail a son importance. Et un jour, j'appelle Pierre, je lui dis, écoute, viens ton magazine, on le rebrande. En fait, viens ton blog, on en fait un magazine. Moi, je le finance. Et voilà, c'est ton magazine, on est à deux dessus, mais c'est toi c'est ton truc, on le fait. Et on commence à produire le truc, on shoot le premier édito. En fait, et pendant le shooting du premier édito, il m'annonce qu'il a déjà programmé le second édito et qu'en fait, le styliste de son édito, ça va être cet influenceur qui, pour moi, l'a un peu négligé.
Okay.
Moi, je lui dis, gros, enfin, tu vois, je suis en mode non, en fait. Le mec, il t'a manqué de respect.
Ça, c'est le fameux seum dont on parlait tout à l'heure.
Bah ouais, mec, t'as manqué de respect et tu lui donnes de la force, tu vois. Et déjà, j'avais pas trop aimé ce côté-là, en fait. Franchement, c'est un truc qui, je me souviens, ça m'avait énervé de ouf. Et même la ligne éditoriale dans laquelle il voulait se lancer...
Ne correspondait pas.
Ne me correspondait pas. En fait, elle me plaisait pas, en sachant qu'en parallèle, moi, je bosse avec des Silence et des Viva, donc je connais les magazines. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je sais que là où il va... C'est pas un truc quali, ça va devenir un magazine random, comme il y en avait plusieurs à Paris. Et moi, le but, c'était de faire un truc qui soit reconnaissable. Et je lui fais ce que j'appelle une Mark Zuckerberg. Et en fait, franchement, je le ghost, en vrai de vrai. C'est la réalité, c'est que je le ghost, je lui donne plus de nouvelles à Pierre. Et je lance le Barbès.
Mais quand tu dis je lance le Barbès, c'est quoi ? C'est que tu repars de zéro ?
Je repars de zéro, je cherche un nom, je cherche une idée, je réfléchis sur plein de trucs et je lance mon magazine en solo, enfin avec mon ami Steven, enfin on est un groupe avec Steven, Pierre, etc. Je lance le Barbès, je shoot mes éditos de mon côté, j'ai fait appel à une pote qui s'appelle Victor Sevenot qui est styliste. Bah, qui vient aussi de Fontenay-aux-Roses, en fait, on vient tous de Fontenay.
Okay.
On est tous au collège ensemble.
Un petit machin.
Vraiment. Et du coup.
On embrasse Perrin, pour savoir si c'est quelqu'un de notre équipe.
Ouais, mais en réalité, malgré tout ce truc, franchement, le problème, il est venu de moi. Moi, je te le dis objectivement, je suis quelqu'un de très objectif. C'est pas lui qui m'a fait un truc, c'est moi qui ai déconné.
On l'a tous fait
en faisant ça, tu vois. Donc pour le coup,
il n'y a pas eu de communication, ça aurait pu être réglé très facilement.
C'est d'ailleurs ce qui m'a reproché, tu vois. J'ai pas communiqué, j'ai juste. Ouais. C'est un truc qu'on me reproche beaucoup de pas communiquer.
Des fois, on fait les mauvais choix, des fois, c'est comme ça.
Ouais, voilà, j'ai lancé le Barbès Magazine, voilà, je l'ai ghosté, je lui ai plus donné de nouvelles. Ouais. Ça a peut-être même entaché un peu sa crédibilité par rapport aux photographes ou aux gens autres. Et j'ai lancé le Barbès Magazine comme ça. Je lui ai dit, vas-y, bah, je vais faire mon truc.
Pourquoi
moi-même.
Barbès, t'as pas vu que t'es pas un mec de Barbès.
Et Barbès, en fait, c'est pour ce que ça représente. Parce que, en fait, si tu veux, j'ai moi le souvenir du temps passé là-bas avec ma mère, entre Barbès, Châteaurouge, etc. Et pour moi, Barbès, c'est un peu le croisement de tout. Quand tu vas à Barbès, à la sortie du métro, t'as les rebeux qui te vendent des cigarettes. Quand t'avances un peu plus loin, quand t'avances plus vers la chapelle, t'as la communauté indienne et sri-lankaise.
Ouais.
Ensuite, plus vers Châteaurouge, t'as tout l'Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, pour moi, Barbès, c'est le croisement de tout. Et t'as aussi les blancs qui sont là. Tu vois, tu rentres dans la brasserie de Barbès, par exemple.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est encore un autre truc. Donc, tu vois, donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un nom qui représente Paris, que tout le monde connaisse, et qui met en avant ce truc de multiculturel, mais qui est propre de tout le monde. Pas plus des noirs que des blancs, mais vraiment de tout le monde, en fait. Et aussi, il y avait une petite partie, je vais pas te mentir, un peu, où je me suis dit. J'aime les problèmes et je me suis dit
provoque.
Ouais, le
summer qui fait la provoque. Allez,
appeler un magazine Barbès en sachant que je vais pas du tout faire un truc ghetto, que c'est pas du tout l'objectif.
Mais c'est marrant parce que tu dis oui, moi j'ai tous les codes du truc et n'importe qui aurait le même code que toi, il aurait pas fait ça.
Ouais, bah c'est
c'était quand la même volonté, c'est un ras-le-bol quoi.
Ouais, bah pour moi c'était logique. Enfin, je sais pas, quand c'est venu, c'était ok, c'est bon, c'est ça.
C'est quoi ta réflexion du coup ? Donc il se passe cette histoire avec Pierre, tu décides de prendre un chemin différent, mais du coup quand t'as opéré ce switch là, c'est quoi la réflexion toi ? Tu te dis j'ai envie de quoi ? Pourquoi ?
Bah je veux un magazine, j'ai envie de faire autre chose, le truc du mannequin ça me saoule un peu, et l'idée du magazine et de monter un magazine, et surtout beaucoup d'orgueil parce que je me dis, moi je suis bon. Je me dis franchement j'ai un œil, je suis bon, je suis sûr qu'on a une bonne image. En plus à ce moment-là aussi il manquait plein de trucs, tu vois, je te dis, il y avait pas les noirs, ils étaient pas présents dans la mode d'une manière générale, mais autant dans le mannequinat que des stylistes, que des photographes, que dans la direction, tu vois, des bookers noirs, moi j'en ai pas croisé beaucoup. Enfin tu vois, en fait dans tous les aspects de la mode, pas que ce que l'on voit, mais aussi dans ce qu'on ne voit pas. Et en fait c'était tout ça, et je voulais ce magazine se voulait justement aujourd'hui, ils appellent inclusivité, mais pour moi, c'est la normalité. Tu vois, il n'y a pas d'inclusivité. Pour moi, c'est ce qui est normal, tu vois. Et du coup, j'ai lancé ce projet et j'ai fait ce que je pouvais vraiment. On lance le premier magazine, donc on va chercher des vêtements en friperie, on fait des trucs, on va des mannequins, tu sais, on fait comme on peut. Beaucoup aidé par Viva et Salons qui m'envoient quand même des bons mannequins. des mannequins qui font des enfin tu sais c'est pour moi c'était ouf quand même, le magazine n'existait pas encore, tu m'envoies des mannequins d'un certain niveau.
Ouais, t'as eu le soutien de tes anciens
collaborateurs. Ouais, vraiment c'était vraiment cool, les premiers numéros sortent et franchement petit succès hein.
Ouais.
Franchement petit succès.
Tu sors quoi? Tu sors ta première édition en print, du
ouais,
digital.
Par contre print, c'était full print. Moi ouais. Je savais qu'il fallait un print parce que quand tu fais un print, ça te met tout de suite à un certain niveau. Mm-hmm. Au niveau des agences de mannequins, t'es pas considéré pareil. Et pour moi, cette magazine, c'était que print. Je me voyais pas faire autre chose que du print. Et même le Insta à l'époque, c'était un Insta jusqu'à même il y a pas très longtemps, c'était un Insta image. Tu vois, on vraiment que des photos images et on n'allait pas plus loin que ça. Mm-hmm. Et ouais, petit succès, franchement.
Et là, sur la première issue, qui sont les photographes? C'est quoi les stylistes? Comment tu fais venir des créatifs qui ne connaissent pas le truc pour le coup?
Le premier numéro, je fais beaucoup de photos pour le premier numéro.
Parce que d'où ça sort ça aussi, la photo?
La photographie,
là,
la photographie, ça a commencé pendant la période de mannequinat. Tu sais, quand tu repères un mannequin, il faut rapidement des photos. Et même des photos pour le book en fait, tu vois, pour une news face et pour aller voir les casting directors, etc.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, faire des photos moi-même, ça me ferait gagner du temps et économiser de l'argent. Donc je me souviens avoir acheté un appareil photo sur le Bon Coin en 2-2
ouais.
Et avoir fait un premier shooting avec un mannequin qui s'appelait Max, qui était chez M Management. Je l'avais shooté à Fontenay, je me souviens. Et franchement, premier shooting, première bonne photo.
Mais
vraiment, les photos, elles ont fini dans son
book. Que des strikes, toi t'es au bowling, que des strikes.
Je te jure.
Les photos ont fini dans son book, tu vois. Okay. Je me souviens que les photos ont fini dans son book et moi j'ai enchaîné. Parce que
la première fois, le premier shoot que j'ai fait, c'est pas moi qui ai shooté, mais j'ai shooté avec quelqu'un. Je croyais que c'était le plus beau shoot de la Terre. Si je le regarde aujourd'hui, je pense que...
Ah non, moi franchement, c'était beau parce que j'étais beaucoup inspiré de photos que j'avais déjà vues. Et en fait, j'avais essayé de reproduire des photos que j'avais déjà vues. Bon, j'ai pas réussi, mais du coup, ça donnait un résultat
ça va.
Plutôt cool, tu sais, dans le cadrage, dans les couleurs, dans les machins, etc. Donc c'était plutôt cool. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé le magazine, j'ai pu faire beaucoup de photos. C'était à l'époque où je commençais aussi à faire des Polaroids.
C'est vraiment la marque, ça, du Barbès, quand même.
Ouais, c'est devenu avec le temps. Mm. C'était pas du tout calculé pour le coup.
Ouais.
Et ouais, voilà, j'ai lancé, j'ai fait beaucoup de photos. Et je crois que j'ai quasiment fait toutes les photos du magazine, hein, du premier numéro. Il y a eu Maud Meillard à l'époque, photographe, petite photographe de Paris, qui photographiait beaucoup les hommes, c'est beaucoup de tests pour les hommes.
Mm-hmm.
Avec Serdan, qui était devenu styliste aussi à l'époque. Et je crois que c'est... Pour le numéro 1, je crois que c'est les seuls qui sont intervenus. Le reste, je m'en suis occupé. J'ai
Mais
pas
comment tu trouves le graphiste, le distributeur, l'imprimeur?
J'ai tout fait moi-même. Franchement, première fois que j'ouvre une design de ma vie, c'est pour le Barbès Magazine.
Tu fais toi-même la maquette du Barbès?
Encore aujourd'hui, c'est moi qui fais la maquette, ouais.
Il va dire, j'ouvre une design, je fais un truc trop beau.
Ah non. Non, j'ouvre une design et je passe peut-être une heure sur YouTube.
Sur YouTube pour apprendre une design.
Mais t'as pas compris ou quoi?
Okay.
Mais tu regardes
une heure, genre comme si t'avais passé un an. Il y en a, ils sont à l'école pendant je sais pas combien de mois.
Non, mais après c'est pour faire la maquette d'un magazine. C'est pas non plus des choses. En vrai, c'est pas fou. Enfin, je pense que je vais peut-être utiliser peut-être 20% d'InDesign en réalité. Mm-hmm. J'utilise juste pour le magazine.
Donc béaba, tu te formes en autodidacte et
ouais,
tu te
voilà,
lances quoi.
Et avec le temps, t'apprends des trucs. Tu vois, t'as besoin de faire un texte incliné. Bah, tu vas sur YouTube, comment faire un texte incliné. Du coup, t'as un nouveau skill que t'apprends. Mais tu sais, c'est au fur et à mesure.
Mm-hmm.
Toi, un texte incliné, j'ai appris ça sur la couverture avec les jardins de Nakache. Avant, je savais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la manière dont
c'est la dernière issue.
Celle de mars.
Cinq ans plus tard. Donc en fait, il a fallu 5 ans pour InDesign.
Tu vois, non, mais en fait, à chaque fois que j'ai besoin d'un show, je vais chercher l'information et je me la forme moi-même. Et
bah, c'est
voilà.
Trop bien, ça. C'est hyper.
Et ouais,
cool.
Aujourd'hui, c'est moi qui fais le PDF de
YouTube. Ça a changé la vie des gens. Hein. Franchement, c'est incroyable.
Ah, moi, vraiment.
Ouais, c'est ce que tu disais, Nico.
En plus,
ça me
fait gagner du temps, ça fait que vous avez de l'argent. Parce que du coup, je peux. Tu vois, avec le magazine, c'est que les images, je les traite à la fin. On shoot toutes les images, je récupère tout à la fin et le PDF, je le monte soit en une nuit, soit en deux nuits, tu vois. Parce que c'est moi qui le fais.
Parce que t'es un mec de la nuit, faut le dire ça aussi. Hein.
Ouais, aussi, je suis un mec de la nuit.
On a la chance de t'avoir là avec le soleil.
Mais du coup, tu vois, je fais tout moi-même et du coup, je peux gérer mon temps et j'ai pas besoin de faire appel à un graphiste qui va me dire, ouais, bah, j'ai besoin dans deux semaines, là, je fais tout moi-même, j'envoie tout à l'imprimerie. Et aussi, l'imprimerie m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, t'envoies le fichier, ils te disent.
Ils te corrigent quelques trucs.
Tes fonds perdus, tes trucs.
Exactement, il faut le fond perdu. Là, la tranche, il faut que tu rajoutes 3 mm. Et du coup, t'apprends sur le tas. Tu vois, il te dit, fais ci. Du coup, tu vas le faire et t'apprends. Et du coup, ouais, voilà, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même. Et la distribution, en fait, je me suis très vite orienté vers une distribution qui était pas, enfin qui est pas dans la norme, c'est que moi le magazine, je le donne à ce qu'on appelle des zones de passage. C'est-à-dire que genre je trouve un fleuriste, je lui file tiens 10 magazines et en fait quand ses clients passent, ils prennent le magazine, ils se barrent avec et en fait succès de dingue. Et c'était Maud Meillard qui m'avait donné le tips parce qu'elle était fleuriste du coup et la fleuriste avec qui elle a travaillé m'a dit ah mais si envoie-moi 2-3 magazines comme ça je les mets ici, ça peut être sympa et tout. Et vraiment ça m'a fait tilt et tout et en fait ça marche et en fait t'en es cool parce que il est gratuit. Les gens, ils voient, je sais pas, un joli magazine parce que c'est quand même un format c'est assez grand.
C'est un bel objet, ouais.
Tu vois, et ils voient ça.
Le print aussi est très quali.
Ouais, bah,
la qualité du print est très quali.
C'était vraiment le but. Et le truc est gratuit, donc les gens, ils prennent.
Bien sûr.
Donc, du coup, attends, la première issue, donc t'as pas d'annonceur. Donc, tout ça, c'est tu jettes de l'argent en l'air. On est d'accord que t'investis sur
toi
à 100%.
Je jette de l'argent. Et j'aimerais aussi remercier Clarisse Lemoine parce que. Je pourrais me dire, c'est Chloé qui a payé les premiers magazines. Parce que du coup, à ce moment-là, Clarisse Lemoine, moi je fais un calcul dans ma tête, je me dis, Clarisse, elle est chez Chloé, je touche plusieurs milliers d'euros de commissions à chaque fois. Mm-hmm. Et en fait, c'est toutes ces commissions de Clarisse qui vont dans le magazine. Pendant des années, en fait. Jusqu'à la fin de son contrat chez Chloé, quasiment. Ouais.
Ok.
C'est du fait que Chloé a financé, ou Clarisse a financé les débuts du magazine.
Donc c'est Chloé là, le premier annonceur.
Exactement, c'est Chloé le premier annonceur. Et ça, c'est énorme, ça. Ouf, ouais. Ça, c'est ouf. Et voilà, premier numéro qui arrive, qui commence en mai, mais en fait que moi, j'envoie aux gens en juillet. Okay. Je sais plus pourquoi, je crois juste, vas-y, flemme, tu vois, je t'envoie le truc en juillet aux gens, etc. Premier petit succès, les gens commencent à trouver un engouement. Il y a un nouveau magazine papier qui débarque à Paris. Et j'ai rapidement mis un stop à tout le monde, parce que tout le monde pensait que vous allez tous venir shooter pour le magazine. Et en fait, j'ai cut tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, ça a été un an, et ça a été un truc qui est devenu très mystérieux, parce que j'enchaînais avec le deuxième. Il faut savoir aussi encore une autre anecdote, c'est que je ramène le magazine à un ami frère qui s'appelle Gilad, ça se porta. Et Gilad, on discute souvent, et moi, il me dit, Eli, tu sais, il a un accent israélien, et il me dit... Tu travailles avec Ozana ? Je lui dis, c'est qui ? Je lui dis, je connais pas. Il me dit, Woman Management, tu devrais travailler avec Ozana et tout. Moi, je dis, bah, vas-y, ok. Je fais une enveloppe, j'écris Ozana, Woman Management. Je passe chez Woman. Vraiment, je dis, bonjour, je cherche Ozana. C'était l'époque, ils étaient.
La table.
Ouais, le système de table était, ils étaient tous collés, j'ai l'impression, tu vois. J'arrive, je dis Ozana, je vois Ozana, bah, la seule noire de l'équipe qui me regarde.
Grande aussi, comme toi.
Je lui dis, tiens, vraiment, elle me connaît pas, je la connais
elle
pas.
Elle pense que t'es un livreur, quoi.
Elle pense que je suis un coursier. Mais j'ai une autre anecdote aussi sur ça après. Et je lui donne et je me barre.
Tu m'as fait la même chose il y a pas longtemps, hein, je te signale. Ah, même pas rentré. Et ce ouf.
Ah, pour déposer la porte, un truc.
C'est quelqu'un d'autre qui a ouvert, il a donné le magazine et il s'est barré.
Ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Je sais pas, peut-être que j'aime bien me faire passer pour un coursier. Mais, non, mais tu sais que c'est un truc que je fais beaucoup. Il y a beaucoup de marques à qui c'est moi, je suis venu le livrer le magazine. Ouais. Ensuite, ils me rappellent, on aimerait bien faire un rendez-vous. Ils m'envoient un email et c'est moi qui débarque. Ils disent, je sais pas, moi, j'aime.
Bah, c'était déjà, pas vous le livreur.
Soit je suis sur Paris, bah, je te le dépose. Ou souvent, j'ai rien à faire, bah, vas-y, je te le dépose. J'économise en livreur aussi, donc tant mieux.
Il n'y a pas de petites économies, en effet.
Vraiment. Et du coup, Ozana envoie un. Non, Sarah. Qui travaillait chez Woman à l'époque, m'envoie un email.
Dans mon équipe maintenant.
Et du coup, Sarah me dit salut, on a reçu votre magazine, en sachant que dans le magazine, il n'y a aucune information. Il y a marqué Barbès Magazine, il n'y a aucune info, il n'y a rien du tout. Ça fait qu'elles sont parties chercher sur Instagram et tout. Alors, elles envoient un email et je leur dis ouais, salut, ouais, c'est moi. Enfin, je leur dis ouais, salut,
oui, c'est
on
moi.
Peut se voir. En fait, elles ont su que c'était moi quand je suis repassé le lendemain. Okay. Et là, Ozana, elle me dit, ouais, je sais pas pourquoi, mais elle a vu, elle dit, ouais, j'aime bien le concept, le machin et tout, j'ai vu et tout. Elle dit, écoute, si tu veux, t'as Carly Lois. Et moi, je suis là.
Bon, alors, attends, pour les gens
contexte.
Qui écoutent,
ah oui,
on
contexte.
Va contextualiser.
À l'époque, Carly Lois.
Voilà. Donc, Ozana, c'est l'agent chez Woman qui gère tous les gros clients, toutes les grosses mannequins.
C'est ça. Qui gère les gros mannequins.
Les gros mannequins.
Mannequin qui est Carly Lois.
Qui, à l'époque, qui est toujours une grosse mannequin, mais qui, à l'époque, est au top du top. Campagne Céline.
Dans le self-service, elle rentre dans le Vogue Paris, elle défile pour Chanel, tout ce que tu veux. Elle est dans le top 50 des mannequins. Ouais.
Ozana te fait un énorme cadeau.
Elle me fait un big cadeau. Bon, après, avec des conditions, elle me donne une liste de photographes et de gens, parce qu'il faut quand même garder le niveau pour la mannequin.
Ouais.
Et dans cette liste de photographes, elle me dit Carly Lois et Camille Hurel. À l'époque, Camille Hurel défilait à toute patate.
Exactement.
300 shows.
Vraiment, c'est. Et moi, je suis content.
J'imagine.
Surtout, je suis content parce que je suis. je suis en face d'une personne, je la connais pas, je vois Nana, je lui ai jamais parlé de ma vie.
Ouais.
Et la première chose qu'elle me dit, c'est Carly Lloss.
Mais t'as eu après la discussion avec elle de savoir pourquoi elle t'avait tendu la main comme ça ou pas?
Jamais, mais je pense qu'on va la voir parce qu'on a les 5 ans bientôt.
Ouais.
Donc on va inviter plein de gens et il y a plein de trucs que j'aimerais faire et Hosanna en fait partie. Donc je pense qu'un jour on aura cette discussion.
Okay.
Mais tu vois, c'est ouf. Et à un moment,
c'est énorme en tout cas.
Ouais, c'est énorme. Et elle me donne cette liste de photographes. Et dans cette photographie, t'as genre Arnaud Largelier, il y a Don Fabien Montic.
Mmh.
Et je t'avoue, dans la liste, je vois un seul noir.
Qu'on attend ici d'ailleurs, hein, ouais, si ouais. L'épisode.
Il est, franchement, je le remercie parce qu'à cette époque, il joue tous les trucs off-white, photographe, ouais, star, réseaux sociaux. Il me répond, il me dit, écoute, je suis chaud. Vraiment, il me dit, je suis chaud. Tu veux shooter quand? En plus, c'était tellement fluide, simple. C'est
parfait.
Que dans le game, quand tu envoies des emails, c'est toujours compliqué. On te demande si, on te demande ça, des machins, des trucs. Et souvent, quand t'es pas Vogue ou des gros magazines, on t'allume. Moi, j'ai des photographes qui me demandent des shootings, genre qui coûtent 5 000 euros le shooting.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et Fabien, il est en mode, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, t'as un studio. Vraiment, le mec.
Tranquille.
Vraiment tranquille et tout. Et c'est parti comme ça, en fait. On a fait un shooting, Carly Lloss a débarqué. À l'époque, j'avais pris comme styliste Fleur.
Parce que j'étais.
Fleur, oui, parce que j'avais fait aussi entre le numéro 1 et le numéro 2, j'avais fait des rendez-vous dans des agences de photographes, j'ai rencontré des gens, donc là sur le coup j'avais fait appel à Fleur, et j'avais contacté aussi Aurore Gibrien pour Carly, qui était dans le Mars Magazine depuis le numéro 1, et en fait il y avait ce truc où moi je rencontre Aurore via Victoire, et du coup je commence à battre. Avec Aurore, on commence à collaborer, je commence à faire venir dans le magazine, et je commence aussi à la payer dans le magazine numéro 1, parce qu'en fait Aurore elle habite loin.
T'inquiète pas qu'elle nous a expliqué.
Et en fait, si tu veux, moi j'avais ce truc de dire putain, mais je peux pas faire venir Aurore à Paris pour 0 euro en fait. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'argent, tu vois, il y avait ce truc dont je commence à la défrayer de ouf en fait. C'est-à-dire que déplacement, je commence à la défrayer. Et dès qu'il y a Carly Lloss, en plus Renoir, Carly Lloss, Aurore, on shoot Carly, etc. Il faut que tu viennes. Et Hosanna m'avait pas, par rapport au make-up artist, ça m'avait pas donné de directive. Je pouvais mettre qui voulait. Donc
t'avais pas le droit à l'erreur non plus, hein, parce qu'elle aurait pas laissé.
J'avais confiance en Aurore à ce moment-là.
Aurore c'est un super
non,
choix.
Super.
Mais ce que je veux te dire, c'est que Osa, elle te met pas genre une liste de hair make-up, mais tu t'es pas trompé. Je pense que si t'étais trompé, tu l'aurais entendu.
Ouais, non, je me suis pas trompé. Surtout à ce moment, Carly, elle avait ses tresses. Elle était très connue pour avoir ses tresses.
Ah, bien sûr.
Donc du coup, en termes de coiffure, c'était tranquille. J'avais Fabien et ce qui compte, j'avais des marques sympas et c'était tout ce qui comptait. Et les photos franchement, les photos étaient top. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, quand le magazine est sorti avec Carly Lloss en couverture, j'ai reçu un mail de Céline, de la marque Céline. Du coup, et il y a eu un impact avec Carly.
Parce qu'elle faisait les campagnes Céline.
Elle faisait les campagnes Céline, tu vois. Et il y a eu un impact. Et même la mode, en fait, les gens se sont dit, putain, il y a un magazine, il y a Carly. Donc, tu vois, du coup, les gens de la mode.
Ouais, ça réveille un peu, quoi.
C'est un peu réveillé. Donc, du coup, on a eu le numéro 2. Et aussi, petite anecdote. Parallèlement, quand Hosanna me donne Carly, elle me dit, envoie-moi le moodboard parce que Carly a fait un autre magazine et c'était ton magazine. Et je me sentais un peu en concurrence, je me dis putain, on va faire un autre magazine et tout, il faut assurer. Puis en plus, j'avais vu que t'avais fait une petite soirée et tout, nous on n'avait rien fait du tout. J'étais en mode putain et tout. Ce qu'on a fait Carly, ça a été un succès. Et dans ce magazine, c'est le magazine, peut-être l'un des numéros qui m'a coûté le plus cher.
Ouais.
Parce que j'ai essayé de faire le mec à travailler avec plein de gens. Tu vois, donc j'ai Fabien Montic qui fait la couverture avec Carly. Et j'ai un photographe italien que j'adore, mais relou, mais que j'adore, qui s'appelle Silverstone Mako, tu vois, qui est très artistique.
Oh bon, c'est vrai qu'il est relou.
Tu vois, il est.
Mais c'est un génie.
Mais il est relou parce que son travail, il est précis. Mmh. Tu vois. Mais pareil.
S'il fait des peintures, quoi, pour expliquer ce qu'il fait. Il monte des sets en set design qui coûtent très cher parce que il crée des décors de cinéma de ce qu'il a dans la tête. Nous, on bosse souvent ensemble, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que.
C'est exactement ça.
C'est du taf.
Je suis intervenu aussi Gilad dans le magazine et voilà. Et du coup, quand tu interviens des photographes, tu peux pas leur dire non sur le. Surtout Mako.
Ouais.
Tu peux pas lui dire non, lui il faut son studio, son machin, son truc et tout. Déjà, j'ai réussi de pas aller à Milan parce que lui il voulait nous faire venir à Milan.
Bien sûr.
Ouais.
Mais vas-y, du coup, numéro qui coûte très cher. Et ça m'avait un peu saoulé parce que je trouvais que ça avait coûté trop cher pour pas assez de retours, etc. Et il y avait aussi ce désir de commencer à intégrer des artistes au magazine. Toi, des artistes, tout ce qui est musicaux et beaucoup de rap aussi.
Ouais, parce que je voulais qu'on en parle de ça.
J'avais aussi ce désir de faire ce lien, en fait. J'avais la fame de Carly qui était là. Et du coup, il fallait
capitaliser dessus.
Et je voulais absolument. Enfin, c'était mon désir de créer ce lien entre les artistes et la mode.
Mm-hmm.
à ce moment-là, on est en 2018-2019, il n'y a aucun français, aucun rappeur, soit tu es un acteur, soit c'est de la chanson française, mais il n'y a personne sur les défilés, il n'y a personne dans la mode, les marques ne calculent pas du tout les artistes, les rappeurs, etc. Enfin, tout ce qui s'appelle
musique
urbain.
Musique urbaine, ouais.
Tu vois, et du coup, à ce moment-là, moi, je fais une réflexion et j'essaie de chercher l'artiste qui correspondait le plus. Et je me souviens, j'envoie un message à Olivier, enfin, qui s'appelle Le Motif, le frère de Shai.
Ouais.
Et je lui dis. Compositeur. Ouais, et je lui envoie pas un message pour le Barbas Magazine. Au départ, je lui envoie un message pour une production, pour une marque de fast fashion. Et je lui disais, écoute, ça peut être une entrée pour Shai dans la mode, c'est un truc cool et tout. Et il me dit, écoute, contacte mon autre frère. Du coup, je contacte son autre frère qui s'appelle Dimitri. Mm-hmm. Et Dimitri me dit, écoute, Eli, j'arrive à Paris. Edem, c'est son styliste.
Ouais.
Du coup, j'envoie un message à Edem. Et du coup, on se voit tous.
Aussi, hein. Qu'on attend aussi, on c'est le moment Edem. De. Ouais.
Edem, putain, il vous répond à vos SMS, vous ?
Ouais, ça va, il répond.
Ouais, ça va, ça va.
Je l'ai réussi à l'attraper à la soirée Jean-Paul Gaultier, on a discuté. Ouais, on t'attend.
Mais du coup, voilà, moi, je rentre en contact avec Edem. Edem, il dit, bah, Edem, il a vu la couverture avec Carly. Il me dit, ouais, je veux un truc pareil pour Shai. Parce que du coup, Edem. Faut savoir qu'entre eux, il est devenu le styliste de Shai.
Yes.
Shai a fait son comeback avec son album Antidote. Et du coup, lui, il veut lancer aussi Shai dans la mode. Donc en fait, on se rend compte et on a le même...
Même ambition.
Ouais, voilà. Il me dit, putain, j'ai vu ton truc avec Carly. Je veux un truc simple, comme vous savez, avec Carly. Viens, on fait un truc. On se voit à Paris, je crois, à l'époque, c'était les bureaux de Modzik ou je sais plus trop.
Ouais.
Et on discute et on y va, en fait. Et du coup, on
trop
décide de faire Shai. Je t'avoue, moi, à l'époque...
Ça, c'est bien avant qu'elle soit un peu endorsed par Burberry.
On va en venir, parce que ça aussi, ça a son impact. Et voilà, on décide de shooter Shai. Du coup, je l'ai fait tous venir à Fontenay-aux-Roses.
Oh là là.
Il faut savoir aussi c'est qu'à l'époque, moi, Shai, je t'avoue, j'écoute pas tant que ça.
Là, tu parles à une grosse fan. Hein, donc
c'est-à-dire que moi,
ouais,
quand
je
découvre Shai... Mais dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire que je vais faire le taf d'aller regarder ses clips, ses chansons, d'écouter ce qu'elle dit. Donc tu vois, là, c'est vrai qu'en regardant, je suis en mode putain, la meuf elle bosse et tout, il y a du truc, t'es son clip joli et tout. Je suis en mode ah ouais, mais d'ailleurs même je comprends pas pourquoi elle est pas déjà dedans, dans la mode.
Ouais, parce c'est vrai qu'elle a un ADN très très
malin. Au moment où on l'a fait, Antidote c'est sorti depuis quasiment un an. Tu vois, on est en 2019.
Ok.
Et du coup, je l'ai fait tous venir à Fontenay-aux-Roses. Shai elle arrive et. Tu vois, j'aime bien aimer parce qu'elle arrive en mode décontracté. Tu vois, moi, je pense que je l'ai vue comme jamais personne ne la verra. Enfin, tu vois, je pourrais sur les réseaux, elle est venue, je sais pas, claquette, jean, t-shirt, enfin vraiment
tranquille.
Après, toi, c'était à Fontenay, on était dans un lieu fermé, on était entre nous, il n'y avait pas de photos qui vont sortir, des trucs et tout. On a shooté, c'était sympa, ils sont rentrés. Faut savoir une chose, c'est qu'à ce moment-là, personne ne veut habiller Shai.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te demande si c'est avant ou après.
Non, les marques ne veulent pas l'habiller. Les seules personnes qui ont accepté de prêter des vêtements, c'est Vivienne Westwood, avec qui on a toujours un énorme, vraiment, Vivienne Westwood, que ce soit l'ancienne équipe ou la nouvelle avec Arnaud. Vraiment, on a toujours été ensemble, et ils nous suivent sur quasiment tout. Sur les cas les plus compliqués comme Shai à l'époque. Franchement, c'est franchement big up à eux de ouf. Il y a eu aussi Barbara Bu avec qui on a beaucoup bossé.
Okay.
Mais je crois qu'on n'a pas eu le temps de faire le shopping parce que c'était un peu compliqué. Il y avait aussi Jean-Paul Gaultier avec Greg, mais je crois qu'il y a aussi un problème de vêtements. Et après, il y avait Edem, comme il était styliste freelance, donc il récupérait des vêtements des anciens shoots et tout,
ouais.
Mais sans le dire aux marques, bien sûr. Mais voilà, on a fait ce shoot et les photos sont sorties.
Sont très cool les photos d'ailleurs.
Énorme succès, mais un succès comme ouais. Moi, j'avais jamais vu. Pour ça, on a fait un truc avec Carly. Genre là on était au-delà.
Ouais, mais c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'en fait la mode ça parle aux modeux, mais la musique ça parle à tout le monde.
Exactement. Et là, énorme succès, incroyable.
Les photos sont trop cool.
Les photos sont cool, les photos tournent partout. Je me fais taguer.
Très belle Shai aussi.
Encore aujourd'hui, je vois des photos qui tournent que j'ai fait en 2019. Enfin, le truc cartonne comme pas possible.
Ouais.
Tous les attachés de presse musicaux m'appellent, les labels indépendants m'appellent, tout le monde va être dans le Barbès Magazine. Tout le monde a vu les photos, je suis dans un autre monde, je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Succès de ouf, et succès aussi niveau mode, parce qu'en fait, moi je pense ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient en mode, ah mais en fait Shai passe, ah mais en fait t'as fait des likes, en fait t'as fait des vues, en fait il y a une fine base et tout, et je pense qu'à partir de là, la mode,
plus,
avec l'impulsion aussi d'Edem, s'est dit, ok, quelque chose à faire. Et en fait,
Edem était proche de Burberry aussi, donc...
Ouais, Edem était proche de
Ricardo,
de Ricardo Siski à l'époque, qui était chez Burberry. Et il y a, en fait, je pense que ça a lancé quelque chose, tu vois, parce qu'en plus, encore aujourd'hui, c'est les photos que les gens ont retenues de Shai.
Ouais,
franchement, c'est vraiment nos photos, c'est celles qu'ils ont retenues de Shai. Et derrière, je crois, elle a fait le Crash Magazine, elle a fait du numéro, elle a fait du Vogue Japon, mais je crois qu'elle a pas trop kiffé les photos. Elle a posté la photo où ils étaient plusieurs dessus.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai en tête celle où c'est alors pas une single, c'est une.
Alors qu'elle a une
après,
single.
Attention, c'est une cover. Hein. C'est une cover de. Ah, c'est... Ok, même si c'est pas une single, faire
non,
une cover
non,
du Japon.
Non, elle a une single, dans ce truc, elle a une single
oui,
qu'elle n'a
oui,
pas postée.
Elle a posté la cover avec tout le monde et elle est à côté de, d'icônes et de grosses stars de
ouais,
la mode.
Ouais, tu vois, souvent les gens ils postent les deux ou ils montrent qu'ils sont dans les deux, tu vois, mais elle, elle a pas posté. Je sais pourquoi elle a pas posté. Et elle a, pour la même raison qu'elle a pas posté le 032C, alors qu'il y a un magazine qui est 10 fois plus truc que nous, qui. Enfin, surtout encore
très,
plus
très,
à l'époque.
Très pointu. Hein.
Tu vois, très pointu, etc. Mais pareil, elle a pas posté. Parce que j'ai su, ça aussi un truc qui va revenir, c'est qu'en fait, moi quand je suis chai, je lui envoie les photos, elle me valide les photos qu'elle veut, et je poste uniquement ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qu'aucun autre magazine n'a fait.
Non, c'est sûr.
Tu vois, respectueux
pour l'artiste. Et 032C, en fait, c'est ce que dans les échos que j'ai eu, c'est qu'en fait, ils ont juste posté les photos qu'ils voulaient. En fait.
Oui, t'as pas de droit de regard.
Elle se réveille un matin, et c'est ça. Tu vois, et ça a été ce... ça a été ça, mais bon, après, ouais, c'est passé ce qui s'est passé. Mais ça a été, voilà, les premiers débuts avec une artiste, ça a été avec Shy. Et c'est aussi là aussi, j'ai rappelé Aurore. Je me souviens, comme j'ai un problème de communication, je me souviens, j'ai un SMS où je dis à Aurore, ouais, t'as toutes les infos pour samedi? Elle me dit, bro, qu'est-ce qu'il y a samedi? Et moi, je dis, mais on shoot Shy, mais tu m'as pas dit. Et là, du boum, boum, boum et tout. Du coup, bah, j'appelle Aurore et c'est même là la première fois qu'elle a maquillé Shy, en fait. Et on a découlé bah, toute l'aventure avec Shy, dont le 032C.
Ok.
En fait, ouais, ça a été les débuts, ouais, on peut même dire que c'était les débuts de. Shive et Aurore, ça a été à Fontenay-aux-Roses pour le Barbès Magazine. Et voilà, et tout, après, il y a tous ces enchaînements. Et moi, j'ai enchaîné, en fait. Il y a eu un succès de ouf et ouais. Ça a très bien marché. Et ça, c'était pour le numéro 3. Mmh. Et numéro 4, c'était Bilal Hassani. Ouais. Là, pareil.
Ouais, mais c'est assez récurrent. J'ai l'impression que tu trouves toujours les gens qui vont exploser, qui vont être très demandés après, et tu donnes un petit peu la primeur parce que peut-être qu'il n'y a
moi,
pas autant de demandes.
Les gens qui ont du potentiel et qui ont juste besoin d'un coup de pouce, tu vois. Après, s'ils explosent, c'est parce qu'on fournit des bonnes images et qu'en fait, on envoie un message aux marques et aux gens en leur disant, bah oui, en fait, regarde, ça marche, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pour Shai, c'est passé pour Bilal, et pas quand on fait Bilal, c'est peut-être pire parce que quand on fait Bilal, personne ne veut l'habiller, bien sûr, à part Vivienne Westwood et Barbara Bui, et t'as David qui travaillait chez Delix à l'époque, qui m'a aussi beaucoup aidé, mais personne ne veut l'habiller. Il y a même des gens qui me disent, ouais, tu devrais pas faire Bilal Hassani, c'est pas un truc, ça va faire niquer un peu le magazine. Du coup, moi, tu me dis ça, bah, ça me donne encore plus envie de le faire. et surtout, non, mais surtout, je suis convaincu, surtout que moi, quand je fais Bilal, c'est pas son Bilal, je le connais pas, à ce moment-là. C'est pas du tout mon univers, je le suis pas du tout. C'est-à-dire que quand je fais Bilal, c'est vraiment dans un truc de, je fais mon travail. De magazine qui met en avant tout le monde et aussi des artistes qui ont un potentiel. Donc je suis vraiment enfin tu vois c'est pas un fan,
quoi.
Je suis pas du tout un fan, tu vois. Et donc quand je le fais, c'est que je suis convaincu.
Ouais.
Et on le fait pareil, énorme succès Bilal et tout, bah première couverture du Bilal, finalement premier pas dans la mode aussi, tu vois.
Ouais.
Et pareil, on l'a
tu fais Léna aussi après.
Léna c'est quand même un peu plus tard.
Un peu plus tard.
C'est quand même un peu plus tard, tu vois, il y a eu ce bah, non, c'est un peu plus tard que Bilal. Et c'est, voilà, c'est, Bilal, c'était pareil, un énorme succès. Je vous passe les insultes que j'ai reçues en DM. De ouf.
Okay.
Je me fais insulter comme pas possible et tout. Donc, si moi je reçois ça, je me dis, qu'est-ce que lui doit recevoir? Mais, pareil, succès. Et, tu vois, on l'habille avec des bonnes marques et genre Vivienne Westwood, tout ce que tu veux. Et il y a eu encore une fois, il y a eu un après. Aujourd'hui, c'est habillé par des grosses marques, mais. Enfin, il y a eu un avant Barbès, il y a eu un après que moi j'ai vu.
Bien sûr, bien sûr.
Et après.
Attends, je t'arrête juste un moment, mais à ce moment-là, est-ce que tu commences à gagner de l'argent avec le magazine ou est-ce que c'est au moins viable?
Non, je veux dire un truc pour ça aller plus vite. Jusqu'à mi-2022, on gagne 0 euros.
Okay. On perd plutôt.
Là, c'est que de la dépense. C'est que de la dépense. D'ailleurs, je compte même pas. Je suis tellement à fond que je compte.
Tu sens que t'as un truc, donc t'y vas, quoi.
Ouais, je sens que j'ai un truc, j'y vais. Après, on enchaîne. Je sais pas, on a fait un truc avec Younes Benjema.
Ouais.
On a fait, je sais pas, je pourrais même plus dire, on a fait plein de trucs. Je sais pas, on a fait, après, entre temps, on a fait Rokia Diallo, on a fait,
ouais,
on a fait Léna.
Léna,
que je connais depuis genre 8-9 ans. Tu vois, à l'époque, quand j'étais agent de mannequin, elle avait son blog, donc on se croisait. Tu vois, donc ce qui est assez drôle. Et quand on fait Léna, on l'a fait pas au bon moment. Parce que à ce moment-là, elle est pas encore bien dans la mode comme aujourd'hui.
Mm-hmm.
Elle est pas forcément à l'aise avec son image. Elle a pas enchaîné les shootings. Elle a encore ce truc lié aux cheveux. Et ça, moi, je le ressens. Tu vois, je le ressens. Et on l'a fait entre deux et, bon, ça a marché, hein, mais on l'a fait pas au bon moment. Faudrait peut-être à l'avenir, on fasse un truc ensemble. Faut qu'on trouve un contexte pour le faire. Mais je trouve, moi, je considère que Léna, on l'a pas fait au bon moment. Tu vois, Mais c'était cool.
Tu non, vois, mais moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'au contraire, t'as ce truc d'hyper précurseur où tu t'identifies quand même les gens qui ensuite s'avèrent avoir des carrières qui sont assez impressionnantes.
Ah ouais, c'est...
Ou en tout cas, qui ont une reconnaissance plus tard que toi, tu sembles pouvoir déceler assez rapidement.
Bah finalement, j'ai peut-être jamais arrêté d'être un scout, tu vois. Je suis peut-être parti sur un autre... Je suis peut-être parti sur un autre bord, mais vraiment, quand je repère un profil... Là, si tu me proposes... je sais pas, tu proposes une star qui est déjà installée, ce qui arrive encore aujourd'hui. Et franchement, je dis non. T'as vu, ça m'intéresse pas de... Il y en a qui ont déjà fait plein de trucs, des magazines, des trucs, etc. Malgré qu'on ait potentiellement des choses prévues en fin d'année.
Ouais.
Je t'avoue, il y a des...
Là, t'as
des...
quand même fait Géraldine Nakache, qui est quand même une icône du...
Ouais, bah Géraldine... c'est vrai qu'on a fait Géraldine Nakache qui était pas prévue. De toute façon, c'est jamais prévu. Parce que malgré tout ce qu'on a fait à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une position qui, pour moi, n'est pas celle qu'on devrait avoir. C'est qu'on n'est pas encore... pris au sérieux, on n'est pas encore... Je trouve qu'on est encore négligé à la fois des marques, des attachés de presse, des agents, etc.
Okay. Et
pour Géraldine Nakache, je vais donner un exemple très simple. Moi, j'envoie un message à l'agence Contact en 2021, je crois, ou 2020, pour Géraldine Nakache. D'ailleurs, je voulais tout. Je voulais Géraldine Nakache, Laila Bekti et Adèle. Je voulais les trois. Mm-hmm. Et franchement, on ne me répond pas. Je les harcèle et je reçois une stagiaire qui me dit « Ouais, elle n'est pas dispo ». Tu vois, non, mais on sait tous ce que ça veut dire. Frérot, va te faire foutre.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire. C'est pas ça que ça veut dire. Mais elle fera pas ton magazine. C'est ça qu'elle veut dire.
Voilà, ça veut dire je te calcule pas, je te connais pas. C'est une actrice. Soit c'est Figaro, soit c'est Elle, soit c'est Vogue, soit c'est une Vanity Fair, mais on va pas dans ça.
Ouais.
Géraldine passe chez Good Sister, ce que je ne savais pas du tout.
Chez
Good Sister.
Ah, le podcast, ok.
Good Sister, c'est l'agence.
Je dis n'importe quoi.
Et
pardon.
En fait, on discutait pour pas du tout pour Jardin, on discutait pour Issaora de base. Tu vois, et donc en discutant avec Julieta, elle me dit ah mais je représente telle ou telle personne, et elle me dit on pourrait peut-être faire un truc avec Jardin Nakache. Je me souviens qu'en fait elle dit ça à en fait c'est même pas moi qui dit ça à Kevin, c'est la personne qui m'assiste, et moi Kevin il me dit Jardin Nakache, je lui dis hey, Kevin, envoie-lui un message. Et il lui dit pas de se foutre de ma gueule. Et du coup Kevin, vont lui envoyer ça un peu plus propre, tu vois. Il lui dit,
j'espère bien.
Et toi, il lui dit, dis-lui. Enfin, est-ce que vous êtes sûr, parce qu'on avait déjà demandé et tout. Et elle dit non, je suis sûr. Si je te le propose, c'est que c'est bon et tout. Parce que moi, j'ai encore le truc de, parce que je sais pas qu'elle change d'agence.
Ouais.
Donc moi, j'ai le truc de quelques années du mec qui nous a ghosté comme pas possible, etc. Et Géraldine Nakache, ça s'est fait comme ça. Et moi, je kiffe Géraldine Nakache, je kiffe. Ouais. Ça me fait rire de ouf. Et en plus, elle est vraiment drôle.
Ouais, elle est très sympathique.
Et j'étais super content de le faire. Et je savais que ça allait marquer un tournant dans le magazine parce qu'on n'avait jamais fait d'actrice française dans le magazine. Encore moins d'actrice comme Géraldine Nakache.
Ouais, aussi établie. Ouais.
Tu vois, et la preuve, c'est qu'après Géraldine Nakache,
le téléphone sonne.
Le téléphone sonne. Ce qui est plus drôle, c'est que l'agence adéquate, qui est la grosse agence d'acteurs, nous répondait jamais. Bon, c'est pas une agence d'attaché de presse, mais tu sais, des fois, on passait par eux pour avoir des acteurs.
Ouais, ils font de l'image quand même.
Ils nous ont jamais répondu. On a envoyé un message pour une actrice qui est inconnue au bataillon, mais que moi, j'ai découvert via une série qui s'appelle Opéra sur OCS, donc je vous la recommande.
Ok.
Et elle m'a dit, ah, mais bien sûr, quand tu veux. Enfin, tout de suite, j'ai l'emploi du temps de la fille sur les deux prochains mois.
Ok. Enfin,
tu vois, le truc, ça s'accélère plus. Et ça, c'est parce que Géraldine Nakache.
Ouais, mais tu passes des paliers avec ton magazine.
C'est ça. Mais moi, je n'oublie personne, par contre.
Arrête avec ça. Mec, n'importe qui, tu passes par des étapes. Faut montrer patte blanche, comme on dit. Faut montrer que quand on te confie des choses d'un certain niveau, bah, t'es à la hauteur, tu vois. Tu veux pas en vouloir aux gens de pas avoir fait confiance au départ, des gens qui te connaissent pas ou à qui t'as pas encore fait l'épreuve.
Moi, j'en veux aux gens qui ne... À un moment, tu me connais pas, c'est une chose, mais regarde ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, mais les gens, des fois, ils ont pas le temps.
Bah, franchement, là, je pense à certains artistes. En 2-3 ans, tu peux peut-être trouver.
Oui, okay.
Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas pressé. Hein. Je te parle d'affaires, des artistes que je suis derrière depuis 2019-2020 pour certains. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui te répètent toujours la même chose. Donc, au bout d'un moment, c'est pas une question de temps. C'est une question de tu veux pas du tout et tu prends pas le temps de regarder. Après, je passe les étapes où on est très catégorisé encore aujourd'hui comme magazine de noir et d'arabe. Et du coup, t'as les gens qui représentent des blancs qui se disent non. Parce que du coup, ça fait trop magazine de noir et d'arabe. Et on n'a pas accès aux artistes racisés qui sont considérés comme premium parce qu'ils font des magazines, dits des magazines de blancs. Tu vois un peu le truc. Et du coup, des fois, il se passe des trucs et je peux pas ne pas m'énerver. Savoir que ma manière de procéder aujourd'hui.
Mais regarde, la victoire, elle est là de dire que en couverture aujourd'hui, t'as Géraldine Nakache. Tu vois, en fait, t'as gagné au final. Il y a rien à gratter.
Ouais, non, mais
dans
c'est une victoire et même là, on
au contraire, tu vois.
On est en discussion pour
plus lourd encore.
Une grosse actrice peut-être en fin d'année.
Cool.
Tu vois, donc en vrai ça marche. Franchement, ça tourne, ça marche et tout. Mais justement, je me dis, à notre niveau en 2023, il y a des choses qui devraient plus arriver. Tu vois, on devrait être plutôt dans la discussion. Tu vois, ouais. Ouais. Je donne un exemple. J'ai fait une demande sur Lily Rose Depp il y a genre 15 jours. Son agent, Adéquate, m'a répondu. Ils m'ont dit de passer par sa publiciste. Sa publiciste m'a dit, écoute, on vient de faire une couverture. Du coup, là, on n'en recherche pas une. Viens, on discute à la rentrée.
Mais
au moins, t'as une réponse.
T'as un peu de considération.
Et la discussion, elle est ouverte. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'elle m'a pas dit non, c'est mort.
C'est très malin.
Tu vois, on est dans.
Après, c'est le game des magazines. Il y en a qui te disent oui, qui te disent non, tu vois.
Mais moi, je suis pas contre le non. En fait, c'est ça le truc. Moi, je suis pas contre le non. Tu vois, surtout, je suis pas bête. C'est comme la fois, j'ai demandé. Un jour, j'ai demandé Céline Dion.
C'est exceptionnel, ça.
Je suis pas débile, tu vois. Mais il y a des trucs où je sais, quand je demande Céline Dion, je sais qu'on va me dire non, tu vois. C'était. Au moins, j'ai demandé. Mais il y a des profils où je me dis, c'est une question de timing. Il y a même des fois, on me dit, écoute, là, on a fini la promo, ou là, c'est pas le bon timing, ou un truc. On se reparle dans 6 mois. Vas-y, rendez-vous dans 6 mois, c'est carré, il n'y a pas de souci. Moi, le magazine, il est là. Dans 6 mois, il sera encore là. Dans 1 an, il sera encore là. Mais en fait, si tu veux, tu sens quand la personne est en face de toi, elle est ouverte à la discussion et que c'est pas un délire de non, je veux pas ton magazine. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en 2023, il n'y a aucun artiste français, enfin, à mon avis, où on peut me dire. Non, je veux pas ton magazine. En fait, c'est une question de sujet et de timing. Tu vois, parce qu'on est sur le cinéma, on est dans la musique, on est aussi dans l'art. On bosse beaucoup avec la Fondation Louis Vuitton. Enfin, tu sais, on essaye d'être sur tous les fronts. Donc, pour moi, on est un magazine qui touche à tout tant que c'est en France, c'est parisien, c'est l'Île-de-France, etc. Mais quelqu'un qui va
me dire. Tu penses pas que faire de la communication. Ok, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Tu penses pas que faire de la communication autour du contenu du magazine pour contrecarrer le truc des gens qui s'arrêtent au Barbès noir arabe, ça te servirait aussi?
Si.
Parce que tu disais, je me permets de te dire ça, parce que tu dis que t'es pas super bon en communication en règle générale, tu vois. Je sais pas qui fait ça dans ton équipe, mais est-ce que tu penses pas que justement débunker un peu le truc de ok, on n'est pas ça et venez, c'est cool, ça te servirait pas sur le long terme?
Si, t'as parfaitement raison, et c'est justement ce qu'on est en train de faire là, franchement on a commencé il y a peut-être 3 semaines, et déjà on a vu la différence, on gagne plus d'abonnés, on a plus de likes sur les réseaux sociaux, et l'événement du 19 juin, c'est aussi l'objectif, l'événement il marque les 5 ans, mais il marque aussi un avant et un après, c'est-à-dire je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère où déjà on fait un événement, ce qui n'était jamais arrivé, parce que personnellement j'avais jamais eu le besoin de faire un événement, mais t'as parfaitement raison, et moi je suis pas quelqu'un de non plus têtu. J'écoute et je réfléchis beaucoup et je me contredis aussi beaucoup et on arrive des fois.
Moi, je vais être très honnête, j'avais un a priori négatif sur toi avant qu'on se connaisse.
Comme beaucoup.
Non, je sais. Et aujourd'hui, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je pense que ce truc de communication que t'as, ça, tu vois, ça peut freiner certaines personnes. Tu vois, je sais que t'as le recul sur ça et on en parle. Je t'en parle, c'est pas un jugement et je t'en parle parce que t'en as parlé depuis le début, tu vois. Mais je pense que d'un point de vue extérieur. Vu ce que tu as comme contenu dans le magazine, vu la qualité de ce que tu produis, je pense que le problème, c'est la communication.
Tu as raison, parce que cette réflexion, je l'ai eue, et c'est pour ça qu'on a déterminé cet événement, et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles dynamiques qui vont arriver, qu'on essaie justement de mobiliser les marques. On va être plus présent, tu vois, qu'avant. Parce qu'avant, vraiment, tout dépendait du numéro qui sortait. On sortait un numéro, du coup, il y avait une série d'images qui sortaient pendant peut-être 1 ou 2 semaines, et des fois, tu pouvais pas avoir de post pendant 2 semaines, et moi, en plus, moi, sur mes réseaux personnels, je communique pas, quasiment pas du tout. Donc, non, là, il y a une nouvelle dynamique qui arrive, et l'événement du 19, justement, ça va marquer cet avant-après, mais t'as parfaitement raison, et moi-même, je suis arrivé à la conclusion où c'est un problème de communication, et qu'on ne communique pas assez avec les gens, et tu vois, il y a pas longtemps, on a reçu un commentaire sur Instagram d'une meuf qui disait que le magazine commencer à trop se gentrifier. Parce que le fait qu'on ait fait Géraldine Nakache et qu'on ait fait Seb il y a pas longtemps, je pense que pour elle, c'était trop de blanc d'un coup.
Too many white people. Alors que Géraldine, en plus, elle est pas vraiment
non, mais
blanche.
Moi, je pense que c'est ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, au lieu de m'énerver, bon, je me suis énervé au début, mais je me suis dit que c'est peut-être parce que aussi, j'ai jamais communiqué sur pourquoi Barbès, pourquoi tout ça, en fait. Et je me suis dit, en fait, voilà, la meuf, elle donne ça parce qu'en fait, elle sait pas, parce que moi, je l'ai jamais dit, jamais communiqué. On va le faire pendant le 19, tu vois.
Bah là, tu le fais là, c'est bien.
Bah, déjà, je le fais là.
On compte sur toi pour pousser le podcast. Hein, du coup, quand ça va sortir, que les gens nous écoutent, qu'ils comprennent.
Toujours. Et tu vois, le 19 aussi, on prévoit des activations, peut-être un talk, des machins. On essaie de voir comment on peut communiquer. Tu vois, on essaie de mobiliser aussi Make Up Forever, avec qui on bosse beaucoup. Parce que savoir une chose, c'est qu'on parlait de est-ce que le magazine était rentable.
Ouais.
Il n'est pas du tout, parce que les marques ne participent pas. Je vais être très franc avec toi, c'est que. Il y a ce truc où, en fait, on n'est pas inclus dans les plans médias des marques. On est devenu le magazine cool avec qui bosser. Mais quand on parle de budget, on n'est pas inclus là-dedans. Tu vois, il y a des marques avec qui on bosse depuis 4-5 ans, peut-être le début du magazine, qui ont des budgets, parce qu'il y a des marques qui n'ont pas de budget.
Mm-hmm.
Mais il y a des marques qui ont des activations médias durant l'année dans lesquelles on n'est pas inclus. Tu vois, je pense à Ralph Lauren, par exemple. Ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Ils ne nous ont jamais rien proposé.
Mm-hmm.
Tu vois, c'est ouf. Et tu vois, Vivienne Westwood, ils n'ont pas de budget communication.
Mais il y a un soutien qui est différent.
Il y a un soutien qui est là. Tu vois, quand je parle à Arnaud, il me dit, écoute, il y a une boutique, il y a ça, on a des partenariats. Si tu veux, on peut faire quelque chose, propose-moi. Enfin, tu sens quand la personne, elle veut.
Ouais, une volonté.
Tu vois,
il y a trouvé une solution, quelque chose.
Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de marques. Mais comme là, j'ai appris qu'il y a 2 marques avec qui je pensais qu'on allait faire une activation cette année. Bah, finalement, non. Et on ne le fait pas parce qu'ils ont décidé d'aller ailleurs. C'est tout. Enfin, il n'y a pas de.
Après, les budgets cette année, achat d'espace et tout, ils ont grave dit.
Non, on n'est pas dans l'achat d'espace. Achat d'espace, il y a des agences pour ça.
Mm-hmm.
Et on vient d'entrer en contact avec une agence pour cette partie-là. Moi, je parle vraiment d'activation, réseaux sociaux, partenariat, brand content, tous ces trucs-là où littéralement les marques dépensent beaucoup d'argent
c'est vrai, dans
ce truc.
Ouais. Bah, de toute façon, on est un peu dans les mêmes réflexions. Là, c'est un truc auquel nous, on est en train de s'ouvrir et on se rend compte que. Faut y aller à la force du poignet, quoi. Défendre son business.
Faut défendre et des fois, tu peux juste rien faire, tu vois. Bah, là, je parle avec une marque avec qui on bosse beaucoup, avec qui on a fait, enfin pas malgré nous, mais tu vois, on a fait un gros. Franchement, on les a mis en avant de ouf. Bah, je parle notamment de Levi's, tu vois, où Koba il est en Levi's sur la couverture, ça se voit. On a balancé des reels sur TikTok, sur Instagram, des trucs. Franchement, le truc a cartonné, mais comme pas possible.
Ouais, moi, ça a été la révélation, cette couverture. J'ai redécouvert Koba.
On sait ce qu'elle veut dire par redécouvert.
T'inquiète, t'es pas la seule. Encore aujourd'hui, on parle de Koba.
Elle est très, très belle, cette cover.
Tu vois, et je me dis, putain, franchement, je me dis, avec ce qu'on a fait, je me dis, c'est sûr, Levi's, ils vont nous appeler cette année. Je me dis, c'est sûr, là, on a fait une dinguerie. Mais moi, j'étais.
Alors qu'ils font plein d'activations.
Ils font ça toute l'année. Et j'ai appris, mais genre, il n'y a pas longtemps que finalement, on n'est pas. Il m'a expliqué leur processus. Il m'a expliqué leur processus. Il est littéralement en train de me dire qu'on n'était pas juste dans le plan média de la prochaine saison, quoi. Sachant qu'ils font, c'est 6 mois. C'est-à-dire que certaines marques font leur plan média un an à l'avance, c'est-à-dire que début de l'année.
Ouais.
Donc tout cela, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont vraiment pas pensé à nous. Et il y en a qui font 6 mois, et je me rends compte qu'il y en a plein qui n'ont juste pas pensé à nous. Et du coup, j'ai jamais la réponse de pourquoi, parce que sans le savoir, moi, tu peux me dire non, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien que tu me dises pourquoi, parce que. Au-delà de justifier, c'est juste, moi, ça m'aide.
Bien sûr.
C'est ce que j'ai dit à Romain de chez Lévis. Je lui ai dit, s'il te plaît, explique-moi comment vous fonctionnez. Comme ça, en 2024, je serai mieux préparé, en fait. Tu vois. Mais je ne suis pas dans cette dynamique de donne-moi ton argent, parce qu'on reste dans le domaine du privé. Franchement, chacun bosse avec qui il veut.
Ouais.
Mais moi, j'aime bien qu'on me dise, parce que ça m'aide, tu vois, parce que je ne viens pas de la presse. J'apprends tout sur le tas, finalité. Et j'ai besoin de savoir pourquoi tu me dis non. Parce que souvent, il y a des vraies raisons. Tu vois, là, souvent, la raison, c'est que. Je sais pas, peut-être par rapport au sujet qu'ils vont lancer, on n'est pas le média qui correspond.
Bon, ouais.
J'ai un doute dessus, mais voilà, c'est un début d'explication. Et moi, je sais que maintenant, vous fonctionnez comme ci, comme ça. Et puis voilà, à l'avenir, je le saurai. Et hier, j'étais chez Jacquemus. Et pareil, tu vois, on a discuté Jacquemus, mais aussi on a un peu discuté aussi média. Et je ne savais pas qu'il y avait des agences dont leur table, c'était de représenter des magazines. Et du coup, c'est eux qui s'occupaient des placements, des achats de médias. C'est un truc que j'ai appris littéralement hier, avec du coup, merci Nabila. Et enfin, tu vois, c'est des choses que j'apprends sur le tas. Les plans médias, je ne connaissais pas, moi.
Oui, il faut avoir fait de l'agence, faut avoir fait du marketing.
Avec les gens avec qui on bosse, il n'y a personne qui me disait ça, moi. Personne ne m'a jamais rien dit.
Mm-hmm.
Tu vois, et bon, à la finalité, j'ai coupé le lien avec 80% des gens avec qui on bosse, parce que je considère que, quitte à bosser pour. Enfin, quitte à pas gagner d'argent, je préfère garder un petit cercle de marques qui vont revenir souvent et puis voilà, que quand on s'est bossé avec tout Paris, enfin tu vois, en plus certains, ils t'appellent, ah j'ai cette nouvelle marque, est-ce que tu penses que, des fois tu pousses des marques et tout, tu vois.
Tu parles d'agences de presse là.
Ouais, de bureaux de presse qui ont des marques, parce que tout le monde ne représente pas ce qu'il y a Paris Lee ou des grosses marques, dont certains ont des marques qui
viennent plus émergentes,
un peu plus émergentes ou d'autres pays, et ils sont payés pour ça, donc ils ont besoin de publication.
Mm-hmm.
Et quand on a besoin de publication, on appelle qui? On appelle le Barbès parce qu'ils sont cool et parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de payer. j'ai décidé vraiment de couper court avec plein de bureaux avec qui on discute plus du tout et qu'il y a plus d'échanges. On répond plus à leurs emails, on se déplace plus à leurs événements.
Ah, tu vois que tu réponds pas aux emails toi non plus.
Ah non mais là c'est visé. Là c'est visé.
Là c'est la hagra.
J'ai même te dire, on les a prévenus. C'est-à-dire que vraiment, genre moi-même, je leur dis, écoute, j'ai décidé de prendre une autre direction. On se reparle en 2024. Je vois ce que je leur ai dit. Ils ont été prévenus pour ceux avec qui on échangeait souvent. Et je sais pas après s'ils l'ont bien pris ou mal pris, mais on leur a dit et puis okay. On continue notre chemin et puis on se rend rendez-vous en 2024. Mais là, on sera beaucoup plus armé. On aura beaucoup plus d'abonnés, on sera beaucoup plus, tu vois.
Combatif.
Ouais, et là, je pense qu'on sera armes égales.
Ok.
C'est cool.
Non, c'est intéressant comme réflexion. Hein. Ouais.
Ouais.
Est-ce que tu penses lancer le digital ou pas? C'est des discussions qu'on a déjà eues en off, mais j'insiste avec ça, moi.
On va ouvrir le site. En fait, en vrai, il y a un site.
Bah oui.
Moi, je le vois. Personne ne le voit. Mais il y a un site et je pense qu'on va le réouvrir à la fin de l'année parce que. Pour avoir un site, il faut avoir des équipes de ouf en fait. Il faut poster tous les jours, faut avoir de la maintenance, faut avoir des trucs et tout. Donc finalement, ça prend beaucoup plus de temps et d'argent. Et on a commencé à développer le Instagram. Genre, on fait des news sur Insta, on fait des posts et des trucs beaucoup plus, interactifs avec les gens.
Tu veux engager plus.
Bah, ça marche. Franchement, en un mois et demi, on a gagné 3000 abonnés.
Ouais, c'est cool.
C'est un truc de ouf, tu vois. On a genre plus de 100 000 passages sur le compte Instagram par mois. Franchement, j'ai vu la différence. Pourtant, bien j'étais sûr. Pas pour. Mais tu vois, Dieu merci, je me suis pas écouté.
Non, il y a des logiques qui sont.
Et ça, franchement, ça fonctionne de ouf. Donc, on développe le digital. Et nos chiffres ne seront encore plus gros quand on reviendra en 2024.
Bah, rendez-vous en 2024, du coup, c'est ça le message?
Bah, c'est rendez-vous en 2024 et soyez préparés parce que.
On rigole pas.
On va parler business. Franchement, littéralement, on va parler business à fond. Et surtout. Tu sais, avec le temps, quand tu sors, des fois, je rencontre des gens de d'autres magazines. Et franchement, quand ils me parlent, je me dis, putain, mais moi, je suis là, des fois, je demande des budgets à 2000 euros à des marques, on me dit non, et j'apprends que ces mêmes marques, elles ont 80 000, 100 000 euros engagés dans tel magazine pour genre un truc et tout. Enfin,
non, moi, j'étais en train de déjeuner l'autre jour, il y avait un mec qui a un podcast, genre, truc tech balourd, là, tu vois, genre développement, enfin, vraiment un truc. Et il y en a que j'écoute, que je trouve chambé. Lui, je le connaissais pas, donc ça doit être vraiment. Il racontait comment il était allé prendre de l'oseille à Société Générale, Maïf et trucs. Et il parlait de ses écoutes, et il fait moins d'écoutes que nous. Et genre, il disait, ah ouais, lui, je lui ai pris 20 000, lui, j'ai pris 30 000, tout ça.
Ouais, bah voilà.
Et toi, t'es là, tu dis.
T'as vu le sentiment que t'as quand tu découvres ce genre de truc?
Ouais. Ouais. Non, mais nous, on sait.
Tu vois, bah moi, je le découvre, tu vois, des marques. Et du coup, ça te pose plein de questions, tu vois. Il y a plein de questions qui viennent, notamment des comment les marques dépensent leur argent. Quelle est la clé magique? Et la clé magique, c'est. Bah, en fait, il faut être là aussi.
Il y a beaucoup de politique, hein, après, si on se dit les choses.
Ouais, non, il y a beaucoup de copinage, il y a beaucoup de timing aussi, tu vois. C'est comme. J'apprends qu'il y a beaucoup de marques, leur budget est déterminé. Début d'année,
bien
fin
sûr.
De l'année prochaine ou début d'année. C'est-à-dire que
bien
moi,
sûr.
Quand j'arrive, je suis en retard, en fait. C'est-à-dire que l'argent, il est déjà dépensé, il est inclus
ouais,
dans les trucs.
Ou alors, tu vas pouvoir réussir à gratter des petites sommes à droite, à gauche, parce qu'il y a toujours des petits fonds de tiroir qui restent de côté,
ça.
Tu
franchement,
vois.
Mais
pour être
ça.
Intégré dans un plan média, il faut arriver à la préparation. Quoi.
C'est ça. Et ça, vraiment, je me dis, putain, il n'y a vraiment personne qui me l'a dit. Putain, on bosse avec tous ces gens-là. Et il n'y a personne qui m'a dit, Élie, si tu veux qu'on te considère dans nos budgets pour l'année prochaine, envoie-nous ton plan média, tes machins, fin de l'année précédente. Quoi. Je me dis, putain, quand même, les gars, ça fait 5 ans qu'on est là, dites-le nous, tu vois. Mais c'est juste je pense qu'il n'y a pas de volonté, enfin, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, chacun fait son truc.
Chacun fait son truc.
Tu vois, chacun fait son truc et ils ne sont pas à dire, ouais, putain, je pensais au Barbès Magazine. Marie, qu'il y a des gens qui le font.
Sur le terrain, il faut avoir les mains prêtes à attraper l'argent, c'est beaucoup
mais
de choses.
C'est vraiment ça, tu vois. C'est ça, en fait. Quand c'est pas tes potes, ils penseront pas à toi. C'est
ouais.
Tout.
Ouais,
et moi, je le prends pas mal. J'aurais juste aimé le savoir plus tôt. Ça m'aurait donné une idée de comment bosser avec les gens. Mais je le prends pas mal parce que je me dis, putain, on est dans le domaine du privé, ça fait partie du jeu. Un jeu que j'ai accepté, auquel j'ai accepté de jouer. Et il n'y a pas de. J'ai aucun souci avec ça. C'est juste les trucs qu'on me dit pas que je déteste. Tu vois, dis-moi non, c'est non. Mais le truc de, ah, mais machin, des trucs, je sais pas, tu sais, les blabla, mais finalement, on te dit rien du tout. Je suis pas fan, il y a des choses qui se disent, et il y a des marques avec qui on bosse et qui sont complètement transparents. Genre Chanel, c'est transparent de ouf. Toi, il y a aucun. C'est compliqué de bosser avec eux, mais quand tu commences à bosser avec eux, t'es là, quoi. Après, avec le temps.
Oui, les relations se construisent, c'est normal, tu vois.
Ils prennent vraiment le temps.
Et ouais, ils prennent le temps de ouf. Et...
ils te laissent là, ils voient comment tu te comportes. C'est,
ouais, mais tu vois,
c'est très intelligent. Par contre, tu crées des relations sur le long terme avec tes partenaires ou les gens amis de la marque.
C'est vraiment ça, tu vois. Et c'est aussi dit, il y a plein de marques comme ça qui, dès le printemps, c'est comme genre Prada, tu vois, Céline, qui est la directrice presse de Prada en France. Elle était transparente, elle m'a dit, bah déjà, ici, on est le bureau français, c'est pas le siège.
C'est pas moi qui prends des décisions.
Je prends pas de décision, donc moi, je peux que prendre ce que tu me donnes. Je le propose au siège, il me le valide ou pas.
Bien sûr.
Il y a ci, il y a ça. C'est acté, c'est dit, je le sais, il n'y a pas de souci, merci, ouais. Et fin de l'histoire. Et tu vois, je trouve pas ça compliqué à faire.
Non, non, mais la transparence, c'est pas quelque chose qui est forcément inhérent à cette industrie. C'est un peu la raison du podcast aussi, tu vois. On vient asseoir les gens pour donner un petit peu les clés, les dessous, les astuces, ce que t'as très bien fait d'ailleurs. Tout le long de l'épisode, mais c'est vrai que si tu demandes pas et si t'as pas la persévérance et la curiosité de t'accrocher, de dire ok, mais pourquoi, on va pas forcément te servir la réponse sur un plateau.
Ah non, mais persévérance, c'est vraiment le terme. C'est le nombre de numéros qu'on a annulés. Ah non, mais après, parce que je me le permets, parce qu'il n'y a pas de marque en jeu, etc. Mais il y a des numéros entiers qu'on a annulés, il y a des trucs qu'on. Enfin, il y a plein de choses qu'on. Parce que moi, franchement, quand un truc me saoule, qu'il n'est pas comme je devais être, je dis écoute, on le tège en fait. Genre un jour on le vit, on le fait pas. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a des choses qu'on fait qui sont. Enfin, tout ce qu'on fait, je trouve que c'est bien, tu vois. Je me souviens, en novembre dernier, on a sorti un numéro sur les communautés sud-asiatiques à Paris, en France. Ouais. Enfin, sur tout ce qui est indien et sri-lankais. Mm-hmm. Numéro incroyable. Enfin, tu vois, le numéro, il est juste incroyable. Moi-même, j'ai découvert des choses. Quand on est parti voir les gens étaient tellement heureux qu'on s'intéresse à ce qu'ils faisaient. Moi, je découvre que t'as l'Inde du Sud, t'as l'Inde du Nord qui sont. Deux pays presque différents. T'as le Sri Lanka, t'as les Tamouls, t'as les ci, t'as les ça, t'as plein d'histoires, t'as plein de choses à faire. T'as même l'influence de l'Inde dans la mode. Tu vois, il y a plein de choses. Et tu vois, ce numéro, il a été, pour moi, il n'a pas été assez diffusé.
Ouais.
Il n'a pas été, tout son potentiel n'a pas été mis parce que, les marques et les gens n'ont pas tant suivi. Mmh. Parce qu'on parlait de l'Inde. Les gens en France, ils s'en foutent. De toute façon, c'est bien représentatif aussi de ce qui se passe. Tu parles, je sais pas, des Indiens ou des Sri Lankais, dans la tête des gens, c'est pac-pac et fin de l'histoire. Donc tu vois, c'était très.
Non, c'est la un manière... peu réducteur, mais oui, c'est un
non,
peu
mais,
ça.
Non, mais c'est... moi, je l'ai vu dans le processus parce que ça, quand tu fais un numéro comme ça, ouais. J'apprends sur le tas aussi. C'est-à-dire que moi-même, je découvre. Et
après, tu vois, c'est les communautés qui saisissent des sujets aussi. On a une copine, Jen, qu'on embrasse, qu'on a reçue sur le podcast. Qui est Sri Lankaise, tu vois, qui se saisit elle du sujet parce qu'elle sent qu'elle a une plateforme et qu'elle commence à pouvoir explorer ces sujets-là, tu vois. Donc c'est toujours un petit peu le chat et la souris de se dire.
Ouais, mais j'ai vu
qui prend la parole, quand, pourquoi, comment.
Moi j'ai décidé de le faire.
En étant fidèle aussi, tu vois, en maquillant pas des cultures.
Moi c'est ce que j'ai décidé de faire vraiment avec la vision de la personne qui sait pas et qui va découvrir. Donc du coup, je suis parti voir. Tous les gens concernés et on n'a rien maquillé, tout est dit comme c'est dit. De toute façon, de manière générale, on envoie toujours les photos et les textes avant pour validation. Donc, tout, tu vois, vraiment, tout a été dit comme ça a été dit. Ça a été vraiment une découverte et vraiment une communauté qui est sous-représentée ici. Même le racisme banalisé les concernant. Et du coup, quand j'ai sorti le numéro, j'ai vu à quel point les gens vraiment s'en battaient les couilles, tu vois. J'ai vu le. Mais non, mais du coup, tu vois la différence. Tu vois une sortie.
Alors que c'est un truc digne du M le monde, en vrai.
Mais c'est. Franchement, on a fait. En plus, on est très comparé à eux. C'est
fort ce qu'ils font.
Ouais, ils sont très,
c'est
très forts.
C'est une belle comparaison si on te compare à eux.
Bah, ils sont très, très forts. Bah, j'aime bien l'idée, tu vois, justement, on peut se toucher tous ces sujets. Tu vois, qu'on peut être. Un jour, on va faire une resta, l'autre jour, ça va être autre chose, tu vois.
Ouais, c'est
j'aime
cool.
bien ça. Bah, je pense qu'on aurait été M le monde, on aurait peut-être eu un peu plus d'impact. Et je me dis, c'est la notoriété. C'est
la diffusion.
Ne serait-ce que la diffusion, tu vois, on a pas réussi, tu vois, ça me saoule, mais on va se rattraper le 19, parce que le 19...
Donc le 19, attends, c'est quand est-ce qu'on dit aux gens, faut qu'ils viennent.
Ça va être annoncé sur les réseaux, mais le 19, ça sera l'ancien Tati de Barbès, à l'Union de la Jeunesse.
Ouais, j'en mets.
On a la chance qu'franchement, ils nous laissent, on a tout le bâtiment. Littéralement,
on adore l'endroit.
J'ai fait la visite, on a les 2-3 étages, les annexes, les machins.
On était là il y a 2 semaines pour le lancement du podcast de notre ami Gloire. Là.
Bah, on s'est croisés.
D'ailleurs, allez écouter ce podcast.
On s'y est croisés.
Ça s'appelle Backstory sur Spotify.
Ouais, du coup, j'ai regardé le premier épisode. Vraiment, allez-y.
J'ai regardé sur le DCH, moi j'ai kiffé.
Très fort.
Ah, moi j'ai pas encore vu sur la DCH.
Ouais.
Meryl.
D'ailleurs, je fais encore un appel de phare. Gloire, on t'attend sur le podcast aussi.
Incroyable. Mais du coup, on sera à l'ancien Tati de Barbès avec une exposition rétrospective photo, donc sur les 5 ans. Tu vois, avec photos, beaucoup Polaroid, parce qu'il y a tout ce que les gens ont vu, il y a tout ce que les gens aussi n'ont pas vu.
Mm-hmm.
Il y a aussi une exposition mode, donc j'ai vraiment sollicité plein de marques et je suis très content parce que t'as Jean-Paul Gaultier qui vont nous envoyer des vêtements, on discute aussi avec Margiela, avec Loewe, avec plein de marques.
Trop
en
cool.
fait, on va faire l'équivalent de ce que font les musées de mode en fait. Mm-hmm. Donc, et l'idée en fait, c'est de faire une rétrospective du magazine sur les 5 ans à travers les différents sujets qu'on a traités, à travers les marques aussi à qui on travaille. Tu vois, et il y a un... Bon, je spoil un peu, mais il y a une room, enfin une pièce du bâtiment qu'on va entièrement dédier justement à l'Inde et au Sri Lanka et pour montrer l'impact de ces cultures dans la mode. Tu vois, on a okay. retrouvé des archives Jean-Paul Gaultier couture avec des saris, etc. J'ai repéré des archives John Galliano avec des imprimés, etc. Enfin, franchement, je suis vraiment parti loin. J'ai reçu en contact avec des designers indiens. Mmh. Tu vois, mais qui opèrent à Paris, qu'on opère à Paris. Parce que l'intérêt, c'est aussi Paris, en fait.
Ouais.
Donc, qu'on opère à Paris. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. On va aussi faire une. Il y aura aussi une room sur le Nouvel An chinois. Parce qu'on a fait un numéro.
Ouais, il est très beau,
on a fait un sujet sur le Nouvel An chinois.
Ah donc, ouais,
on a recontacté les gens qu'on avait shooté. Dans une exposition en termes de. Bah, pareil, toujours de vêtements à travers les différentes marques de luxe pour montrer l'impact de ces communautés dans la mode.
Ouais.
Mais aussi, il y aura des expositions aussi d'habits. Tu vois, on avait photographié les costumes de tigre, etc. Donc, il y aura toute une exposition autour de ça avec un storytelling.
Ah ouais, ça va, c'est du boulot tout ça. Hein.
Bah, je suis en plein dedans plein et dedans. Je suis très content parce que, de manière générale, les marques ont beaucoup.
On
répond du présent. Et celles qui ont dit non, bah, déjà, vous ratez. Et beaucoup, c'est parce qu'aussi, beaucoup sont représentés par des bureaux de presse. Et donc, on a des intermédiaires.
Okay.
Mais quand on est en relation directe avec les marques, franchement, elles ont toutes dit oui, elles sont toutes cool et tout.
Trop bien.
Donc ouais, c'est vraiment sympa. Je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de montrer
ouais, c'est trop cool.
Tout ça. Bah, moi aussi, j'ai hâte de voir, parce que là, on bosse justement sur la Céno. Et
trop
vraiment, j'invite vraiment les gens à venir, parce que vraiment, la partie qui, moi, va me parler le plus au-delà de... Parce qu'il y aura beaucoup de mes photos et de Polaroid qui vont être exposées. Mais finalement, moi, ce qui me fait kiffer le plus, c'est vraiment la partie sur l'Inde. Parce que c'est un travail en fait qui a été fait en novembre, parce qu'on aurait dû avoir une exposition sur l'impact de la communauté indienne et sri-lankaise dans le monde de la mode, qu'on n'a pas pu faire justement.
Okay.
Donc du coup, il va être fait le 19, et c'est un travail qui... c'est un vrai travail de recherche, et ça va être beau en fait, ça va être beau. Et je pense que ça n'a jamais été fait à Barbès, autant de marques, tu sais, tu vas avoir des métiers d'art Chanel,
non,
tu vas
va
avoir
charmé.
Des trucs comme ça et tout à Barbès. C'est du jamais vu, et les gens vont pouvoir aussi venir voir tout ce qui est haute couture, des choses qu'ils ne voient pas, au quotidien, venir voir tout ça, les storytelling, aussi des trucs, des images, des explications. On a aussi invité beaucoup de personnalités qui sont venues dans le magazine au fil du temps, en fait.
Ouais.
Donc okay. ça va être cool, ça m'angoisse un peu.
Génial, non, ça va être charmé.
Mais franchement, je pense que ça va être cool.
Trop bien.
Ça va être sympa.
Trop bien.
Bon, on sera là de toute façon.
Bah ouais, vous allez recevoir les invitations la semaine du 12.
Ok, on attend ça. Mais bravo en tout cas pour ces 5 années de travail, même plus, parce que du coup les années Scout sont des années de dur labeur aussi.
10-11 ans.
Ah ben voilà, la décennie. Non, bravo pour le parcours. Merci d'avoir partagé tout ça aussi ouvertement avec nous.
Ouais, et puis, merci à vous
d'avoir invité.
Hâte de voir la suite.
Merci beaucoup.
Merci.